Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Mes bébés phoques. Aujourd'hui, je reçois la scénariste réalisatrice Yaël Kojo-Goldberg pour son premier livre, Le Lac Magique, publié au Seuil. Je sors cet épisode un jeudi car j'ai enregistré plein d'épisodes pour l'été et qu'il vaut mieux que vous écoutiez celui-ci tôt pour embarquer le bouquin de Yaël dans votre valise avec le mien, si vous ne l'avez toujours pas lu. Ou comme ça, si vous l'avez lu, vous l'embarquez, vous le prêtez, ou vous l'achetez, ou vous l'offrez. D'ailleurs, taguez-moi dans vos stories où vous le lisez à la plage, ça me fait rêver. L'eau est le thème de cet épisode et je voulais envoyer justement à Yaël mon court-métrage La Piscine, réalisé en 2014. Je le partage pour tout le monde en mettant le lien dans la description. Et court-métrage plus récent auquel j'ai participé en tant qu'actrice, celui de Marina Ziolkowski avec Barbara Butch. Le teaser est sur mon Insta et le film entier est sur YouTube, avant la diffusion sur Canal+, en septembre. Je vous mets ici l'une des chansons du film. Vous allez voir, c'est ma voix, puis ensuite, à la fin, celle de Barbara.
Sois pas déçu, je vois pas de toi une princesse. Je n'ai pas reçu mon diplôme de body school dress. Mais ici c'est un temple oublié de l'histoire, où personne ne craint les regards. Y'a pas de formule magique pour faire du XS. On te juge sur ton corps, jamais sur ton cortex. Mais les exclus du marché de la bonne meuf se ressentent en silence pour la contre-taf. Sorora, cadabra, fitness, ventre plat. Je ne suis pas un bout de viande, je vaux mieux que ça. Sorora, cadabra, sois belle et tais-toi. J'envoie dans le mur tout ce qu'on dit de moi.
Et voilà, direction YouTube pour découvrir le court-métrage extra large en entier si cette chanson vous a déjà donné envie. Et maintenant, place à l'épisode avec Yaël. Désolée, il s'agit encore d'un petit déjeuner. Il y a des bruits de cuisine et des baisses de niveau de volume. Puis ça s'arrange. Au tout début, on parle de l'angoisse des vacances, puis Au fur et à mesure, on parle des femmes, celles qu'on aime, qui nous élèvent, qui nous tendent des perches, celles qu'il faut fuir à l'inverse, quand on n'est pas encore trop addict à leur flatterie, le danger du double lien, les trop dont il faut se méfier, pourquoi Yael et moi sommes si facilement gourouisables, ou encore notre connexion via mon pyjama de scène. Bonne écoute!
Se potentialise en angoisse dès lors que tu ne peux pas en parler. Dès lors qu'il y a un consensus social pour dire non, en fait, ça, non, ou alors vraiment, t'es la tarée de service, quoi.
Grave.
Donc, sur la question des vacances,
c'est clair.
Tu regardes la gueule, par exemple, des gens à l'aéroport sur leur chapeau de paille,
il y en a un qui sourit.
Il y a une sorte de tension, et du coup, tu dis, mais pourquoi, du coup, on n'a pas le droit d'en parler?
Ouais, pourquoi c'est interdit? Non, mais c'est vrai, moi, j'ai toujours la
folle dire que les vacances, c'est hyper angoissant. Pour plein de gens, c'est une source d'angoisse épouvantable.
Sauf peut-être les gens qui ont une maison, c'est pour ça que moi, un jour, j'aimerais bien avoir une maison.
Je pense que ça résout.
Ça résout un problème. Vous y êtes allé?
Ouais, c'est comme ça. En fait, ton père, il est très ami.
Ouais,
avec
Olivier,
avec Christine Ravet.
Ah oui, bien sûr, je la connais, Christine Ravet.
Et ouais. Christine Ravet, c'est elle qui dirigeait le département des acquisitions chez MK2.
Ouais.
J'étais en stage chez elle.
D'accord.
Elle a démissionné.
Ouais.
Cette folle dingue qui est devenue une de mes meilleures amies, c'était pour mon mariage et tout ça.
D'accord.
Elle est allée voir Marine Garmitz en lui disant, alors je m'en vais et ça va vous paraître bizarre, mais vous devriez rencontrer ma stagiaire. Et donc un jour j'arrive chez MK2, donc j'ai 24 ans à l'époque, j'arrive chez MK2,
ouais.
Et sur le sous-main, sur mon bureau, il y a un mot, qui, un post-it qui dit, tu sais, c'est la boulangerie anarchiste à Montreuil, là.
Oh.
C'est bon. Et qui dit, rendez-vous Marine Garmitz à 15h, et moi je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie, le mec il me convoque dans son bureau alors qu'il sait même pas que j'existe. Tu vois?
Ok.
Et j'arrive dans son bureau et en fait je vois la teneur de la conversation, de comment il me reçoit.
Qu'est-ce qui
se
passe?
Là il y a un truc hyper bizarre et je comprends qu'en fait c'est un entretien d'embauche, quoi.
Putain, c'est fou. Ça, donc, c'est Christine Ravet.
C'est Chris, donc si tu veux, c'est pas le pied à l'étrier, c'est la meuf,
elle te donne la chance de ta life. Tu vois, ouais, c'est énorme.
C'est énorme.
Tu veux un petit couteau avec?
Peut-être que peut-être au fur et à mesure, on a un peu besoin de.
La babka est extraordinaire. Je suis désolée pour les auditeurs qui nous entendent. On va prendre aussi un peu notre petit déjeuner. Ça arrive tout le temps chez moi. Et je t'ai écrit un petit poème.
Oh, trop bien.
Yael. Je rencontre Yael à une manif en soutien à l'Ukraine où je suis allée avec mon père qui rejoint un ami à lui qui connaît Yael. Étonnamment, on croise même ma mère avec une amie à elle, mais j'ai le temps de papoter un peu avec Yael. Elle m'aborde gentiment d'un « je connais tes vidéos » et me raconte en deux mots son enfance, les Juifs à Versailles. Mais pas le temps ce jour-là pour plus de détails. Yael m'écrit ensuite sur Instagram, elle a lu mon livre, il lui a plu et elle m'envoie le sien, « Le lac magique » publié au Seuil. C'est très beau, unique. C'est le premier livre qui m'a rendue jalouse de son héroïne, Yael, qui se baigne tous les jours dans un lac fabuleux au Canada en compagnie de femmes déesses. À chaque plongée, Yael ressuscite un petit peu, nettoie ses blessures pour finir par réussir à tout pardonner. J'ai hâte de savoir comment est née cette idée et si je peux avoir l'adresse de ce lac. Moi aussi, je veux m'y baigner. Merci Yael de venir dans mon podcast.
Merci Rosa de m'y avoir invitée. Je suis trop contente.
Moi aussi, je suis trop contente. Et puis, c'est la bonne excuse pour continuer la discussion qu'on avait ce jour-là à la manif.
Ouais. Alors, l'adresse du lac, jamais. Over my dead body.
Même en off?
Même en off.
Ah, merde.
Ouais, c'est l'unique promesse. Et elles me l'ont demandé de façon extrêmement formelle. Ah. Sans avoir la moindre idée, ni moi non plus, hein, qu'un jour j'écrirai un livre. Donc en plus, c'est vraiment ne pas donner cette adresse, ni même pour du tourisme, ni même... Donc voilà, elles ont ce lieu. Enfin, c'est pas une communauté de femmes, hein, c'est une communauté, c'est des familles. Mais il y a un premier lac qui est en bord de route et dans lequel les familles vont. Et puis dans la forêt, sur ce terrain, il y a un lac caché qui leur est réservé le matin. Et toutes les femmes vont marcher dans la forêt ensemble, tous les âges, donc il y a parfois des petites filles, parfois il n'y en a pas, des grand-mères, etc. La plus âgée, je pense, la matriarche devait avoir à peu près 75 ans. Et elles vont marcher dans la forêt pendant quand même un bon moment, c'est-à-dire que la baignade se mérite. Hein. Et je pense que en fait, ça a vraiment valeur de récompense aussi, juste dans l'effort physique. Et puis une fois que tu as marché tes deux bonnes heures...
Ah ouais, deux bonnes heures.
Ouais, et que tu es bien transpirante parce qu'il fait bien chaud, etc. On arrive au bord de ce lac et l'idée, c'est de se déshabiller intégralement, même si elle pratique... cette façon d'être toute nue un peu étrange, vu qu'il y en a une qui a un pince-nez, l'autre qui garde son soutien-gorge, la troisième qui a un bonnet de bain. Enfin, voilà, du coup, il y a une sorte de, comme ça, de vision au premier abord un peu absurde de ces femmes, parce qu'après, c'est tous les corps, tous les âges. Enfin, c'est ça que moi qui m'a, dans un premier temps, complètement émerveillée. Et elles se baignent tous les matins nues dans ce lac. Et l'après-midi, ce lac est réouvert au public, si j'ose dire, au public de la communauté. C'est-à-dire que dans ce lac... on peut venir en famille, en maillot de bain, l'après-midi.
D'accord, mais le matin, c'est pour les femmes.
Le matin, c'est pour les femmes. Et d'ailleurs, ça a d'autant plus de valeur que l'après-midi, tout le monde peut y venir. C'est que le fait de me dire tous ces gens sont OK pour réserver le lac aux femmes et que ce soit vraiment un moment entre elles et personne ne sait ce qui s'y passe. Et... enfin, voilà. Après, moi, j'ai trouvé ça magique, mais...
C'est fou. Et c'est écrit quelque part? Tu penses que c'est dans la loi du county?
Non, je pense que rien n'est écrit et que tout se transmet oralement. C'est une communauté juive, clairement libérale, anglophone, communiste. En tout cas, dans les années 20, c'est les grands-parents qui sont venus s'installer là. Et grands-parents communistes, ils ont fui la Russie et ils sont partis au Canada. Et... tout se raconte, en fait. Moi, pendant les marches, c'est ça qui m'arrivait. C'est que ces femmes, elles me racontaient leur vie ici, leur passé ici, qui était amie avec qui. Et puis, tu as une sorte comme ça de petite reconstitution, tu vois. C'est... tout d'un coup, tu arrives à Walnut Grove et il faut comprendre qui est Nelly, qui est Charles, qui est Caroline, quelles sont les familles qui s'entendent, quelles sont les familles avec lesquelles il y a un peu de la tension, quelles sont... bon.
Ah non, c'est fabuleux. Et pendant tout le livre, t'as des images dingues, de vraiment du lac jusqu'à la fin. Enfin, je vais pas spoiler les dernières pages, mais t'as vraiment des images féeriques. Et est-ce que t'as des gens qui t'ont dit, fais-en un film, s'il te plaît?
Alors oui, pas mal. Et c'est en cours de réflexion.
Ouais.
Voilà, comme moi, par ailleurs, je suis scénariste et réalisatrice, ça m'a pas complètement échappé. C'est pas du tout une chose à laquelle j'ai pensé dès le départ, vraiment pas. D'autant que, pour raconter, tu te posais la question de comment cette idée est née. Ouais. Ça n'est même pas mon idée, puisque dans la grande série de mes névroses, il y en a une qui consiste à avoir, en tout cas qui consistait, parce que ce livre a changé pas mal de choses, donc il a aussi produit un effet magique sur moi. Il y a une de mes névroses qui consistait à avoir énormément de mal à identifier mon désir, j'en parle dans le livre, à le reconnaître. Et à l'assumer, c'est-à-dire que la plupart du temps, les gens ont du mal à assumer leurs désirs, et ça, je pense que c'est une chose qu'on partage tous. Et puis après, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus féminin, qui est d'avoir même du mal à reconnaître un désir, à l'évaluer pour ce qu'il est, et à se dire « Ah, en fait, c'est ça que je veux ».
Carrément.
Et après, l'assumer, c'est encore une autre paire de manches, mais moi, la question de mon désir était tellement inhibée en amont de tout... que si tu veux, c'était comme un robinet dont l'eau ne sortait pas. Donc, je savais même pas que j'avais soif, en fait. Et un jour, dans un cercle privé, pendant un dîner, je raconte ces baignades.
D'accord.
Et j'imagine que j'en parle comme j'en parle dans le livre. Enfin, évidemment, c'est à l'oral, c'est pendant un dîner et tout ça. Mais j'en parle pas comme une simple anecdote de vacances. Non. Je raconte à quel
le
point ça m'a...
souvenir féerique.
Voilà, et puis à quel point ça m'a métamorphosée, à quel point ça a déclenché chez moi... ouais, une vraie métamorphose de mon rapport au corps, à la féminité, etc. Ma découverte de la sororité, en tout cas dans ces conditions-là. Et puis évidemment, tout ça potentialisé par la vertu de l'expatriation, parce qu'on le sait bien que quand on est loin, on a l'impression d'avoir une seconde chance.
Et bien sûr.
Ah, si j'essayais d'être quelqu'un d'autre que moi-même, est-ce que ça marcherait? Alors la réponse est non, quand même. Hein. C'est comme dans les histoires d'amour, on n'amène toujours que soi, mais voilà. Il y a un aspect un peu déceptif à ça, mais,
ouais.
Mais quand même, il y a la possibilité de faire autrement, en fait, de passer par d'autres chemins. Et notamment, le chemin des baignades, ça a été ce que je raconte au début du livre. Cette femme qui me propose, dès mon arrivée, de venir avec elle le lendemain matin et de se baigner nue. Moi, en temps normal, j'aurais dit non. J'aurais esquivé le truc, je serais restée polie et tout, parce que je suis une fille civile. Mais clairement... Et puis là, parce que je suis ailleurs et parce que je sens que j'ai une volonté de me renouveler, tu sais, comme quand tu changes de collège ou de lycée, que tu dis, oh, putain, personne ne me connaît, personne n'a la mémoire de moi, allez, et cette femme va pas trouver, elle va pas me dire, oh, c'est dingue, Yael, que tu dises oui tout de suite. elle va trouver ça juste normal.
Ouais.
Et ce premier oui, en fait, et c'est ça dont j'ai parlé au dîner, il y avait cette éditrice, Mireille Paolini, éditrice au Seuil, qui était là au dîner, qui m'a appelée le lendemain en me disant, en fait, je voudrais que tu écrives.
Waouh.
Voilà. Donc moi, dans ma vie, j'ai énormément de chance parce qu'à intervalles très réguliers, il y a des femmes...
Qui te donnent des chances.
Alors, qui me voient.
Ouais.
Et qui me disent, tu devrais faire ça. Et merci le divan, au lieu de partir à chaque fois en courant.
Tu dis oui.
Je dis oui. Voilà. Mais c'est un truc, j'ai fini par m'en apercevoir parce que plusieurs fois, je suis devenue réalisatrice parce que Lola Gans, productrice, m'a dit « t'es scénariste, mais je pense que tu n'es pas à la bonne place et que tu te caches derrière des doubles rideaux. En fait, tu devrais réaliser. » Et grâce à elle, je suis devenue réalisatrice. Là, le livre, c'est Mireille Paolini. Enfin, j'ai fini par me dire, en fait, il y a un sacré truc. L'anecdote dont je te parlais de comment j'ai commencé à travailler chez MK2, c'est Christine Ravet. J'ai eu des bonnes fées, quoi.
Ouais, mais peut-être que tu t'es rendue disponible à ces bonnes fées, parce que peut-être que, de base, t'aimes les femmes, et que les femmes sentent ça, et qu'elles ont envie de t'aider.
Ouais, alors je pense qu'effectivement, il y a un modèle de femme que maintenant, avec l'expérience, je reconnais un peu à distance, et que je fuis. Mais immédiatement, c'est la femme rivale.
Ah ouais.
Et alors qui parfois est très, très, très bien déguisée en femme camarade.
Ouais.
Donc voilà, ça c'est, du coup, parfois on la débusque un peu avec difficulté, mais moi maintenant j'ai un genre de radar, tu vois, j'ai un judor.
Il faudrait que tu nous donnes quelques petits indices parce que je pense que je l'ai pas encore tout à fait.
Ouais, non. Ouais. Et ben tu sais quoi, moi je vais te donner un indice. La nana qui la première fois que tu la rencontres te dit que t'es tellement belle et tellement intelligente et tellement sympa et tellement nan. Elle te donne la première dose gratos.
Ouais.
Et quand tu reviens et que tu veux retrouver cet état-là, de connivence, de gratification, etc., là, tu payes très, très cher. Et bien, celle-là, et je pense qu'on en a toutes croisées, des comme ouais, ça.
C'est tellement juste ce que tu dis.
Voilà, celle-là, il ne faut pas se dire, c'est comme avec la drogue. Il n'y a pas de cas où ça va se repasser bien. Et là. En fait, celle-là, il faut passer son chemin.
Ouais.
Mais quand même, globalement, toutes les autres, enfin moi j'ai énormément d'amis, je suis très chanceuse, je suis très entourée et par des nanas que j'adore quoi.
Non mais je suis comme toi, c'est vrai de l'expérience, tu vois, ma meilleure pote Adrienne, elle ne fait jamais aucun compliment. Enfin, elle en fait de temps en temps et elle exprime, tu vois, l'affection et l'admiration mais de façon très pudique. Et j'ai des expériences négatives que j'ai pu avoir avec des femmes où ça a pu vraiment mal se terminer. C'est à l'inverse des femmes qui établissaient un double lien, c'est-à-dire qui commencent avec une flatterie de ouf qui te galvanise et où toi t'es là waouh, dis donc, alors comme ça je suis un génie. Et ensuite derrière, bam,
après, tu
coup de couteau,
bien cher.
Ouais. Et ensuite c'est la claque et la caresse quoi. Et avec des trucs très violents, très méchants, suivis d'un truc énorme, en fait, qui est addictif, quoi. Parce que c'est aussi une disposition, un regard, un truc qu'elle a sur toi, qui donne confiance. Mais en fait, c'est trop, puisqu'ensuite, évidemment, tu peux
alors,
pas...
Alors, le trop, c'est un indice, par exemple. Ouais. Le trop, la nana qui te couvre de cadeaux, ouais. La nana qui... Il y a un truc...
dont il faut se méfier.
Ouais, où tu te dis, en fait, là, c'est un enjeu qui lui appartient. Alors, on en est tous là dans les relations, hein, à avoir parfois du mal à pas tout confondre et pas tout mélanger et tout ça. Mais en tout cas,
c'est dur de résister à ça. Surtout que les mecs ne sont pas comme ça forcément. Comme on s'habitue à ce que les hommes fassent pas trop de compliments en général,
ou ne
soient pas très expressifs. D'un coup, quand tu trouves ça chez une femme, t'es en mode oh waouh, c'est ça qui est génial, c'est le fait qu'elle puisse me voir comme ça.
Puis je pense qu'il y a un piège qu'on tend pas mal les unes les autres, c'est celui de la reconnaissance mutuelle.
Ouais.
Et en fait, dans le défaut de l'altérité, il y a de l'abandon aussi, il y a une promesse de maltraitance, il y a un truc,
grave.
Tu vois, genre, en fait, si je t'aime parce que je me vois en toi, il y a un truc qui ne
très
va pas,
malsain,
tu
complètement.
Vois. Et très souvent, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu des relations d'amitié et je suis pas la seule, hein, mais ou des relations. Alors Dieu merci, ça m'est pas arrivé du tout dans le travail, mais des trucs de ça commence de façon super fusionnelle et puis c'est ton âme sœur et ton alter ego là, hein, puis le truc des années plus tard, ça se termine dans un bain
de sang, de feu.
Mais en fait, ça pouvait pas être autrement parce que ouais. finalement les places étaient pas les bonnes dès le départ. Non. Les bon. Mais
et puis le contrôle aussi, quelqu'un qui veut avoir trop d'emprise ou trop te dire quoi faire, ouais, qu'est-ce qui te va bien.
Ouais, puis moi j'étais tellement facile à gourouiser, quoi. Ouais. Je demandais que ça, d'avoir des modèles et des. Je pense que ma première tranche de psychanalyse, la question que j'ai le plus posée, elle avait fini par me dire un jour, faudra écrire un livre qui s'appelle comme ça. Je lui disais toujours, mais comment font les autres ?
Ah, oh, c'est beau, ce titre.
Mais comment font les autres ? Et donc, voilà, avec le fantasme que les autres femmes savaient tellement tout mieux que moi, savaient tellement tout faire, savaient tellement tout... Et d'ailleurs, je pense qu'en partageant ça dans le livre, je crois que c'est un des échos que j'ai reçu le plus et qui me touche le plus, c'est toutes les femmes que je connais ou que je connais pas, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens te retrouvent, ouais, même quand ils ne te connaissent pas, tu vois bien. Et c'est vachement troublant, ça, de recevoir plein de messages... Et de femmes qui me disent, mais merci, je me sens tellement moins seule, je me sens tellement comprise, je vous dis des trucs que j'aurais jamais osé formuler, même parfois me formuler à moi-même. Et en fait, je trouve que entre femmes, bah, dans le meilleur des cas, c'est exactement ça qu'on peut s'offrir.
Grave. Et puis, c'est vrai que tes femmes du bouquin, elles sont tout peut-être sauf la femme française intimidante. Et on parlait de l'angoisse des vacances, mais en fait, c'est aussi un angoisse d'idéal inatteignable, de perfection, que ce soit physique ou familiale.
Ouais. La parisienne, quand même, elle te met mal.
La parisienne, elle a tout, quoi. Ouais. Elle a la famille parfaite, le job parfait, le corps parfait. Ouais. Tout est parfait, quoi. Et puis, elle s'en cache pas.
Et puis surtout, elle a une propagande d'elle-même qui est parfaite.
Ouais, absolument.
En fait, maintenant, j'ai fini aussi par voir la différence, et en fait pas toutes les femmes, tu vois, je pense qu'une des premières choses qui m'a vachement attirée chez toi, c'est quand j'ai vu que tu faisais ton seul en scène en pyjama. Alors ce pyjama, il est très élégant et tout, mais du reste c'est un pyjama. Et je me suis dit, alors quelqu'un qui décide de se présenter aux yeux du monde en pyjama, en fait on a forcément des trucs à se raconter. Mais et précisément la parisienne, elle fait pas ça.
Non
parce que au fond, alors tu sais ce que c'est ma théorie, moi, maintenant.
Ah, je t'en prie.
C'est que je pense qu'au fond, elle n'en a pas la force. En fait, quand tu es fort, tu peux dire je sais pas, tu peux dire je suis nulle, tu peux dire je me suis trompée, je n'y arrive pas, tu peux demander pardon, tu peux, tu vois ?
Ouais.
Tu peux être en scène en pyjama. Voilà. Et en fait, c'est quand ton niveau de faiblesse, tu le perçois plus ou moins consciemment, est trop élevé, et ben, t'as besoin, je parle pas de quand t'as envie, hein, des talons, du rouge à lèvres, machin, mais si t'as besoin comme une armure,
comme un truc,
et que du coup les autres le perçoivent comme quelque chose de vaguement agressif, ou en tout cas un peu offensif et tout ça, c'est que tu flippes, quoi, tu vois, c'est que tu flippes et que t'es pas ok avec l'idée qu'on le voit.
Ouais, que tu te conformes, et c'est marrant comment la tenue de scène et cette tenue, ça me fait trop plaisir ce que tu dis. Parce que ça fait le tri. Ce serait comme si j'avais une conviction politique qui éloignait ou rapprochait des gens de moi.
Exactement. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que tu passes une sorte de contrat. Et moi, dans le livre, j'en avais pas conscience au début, mais l'éditrice me disait, il y a un contrat de sincérité très fort qui est dès le début. Et du coup, ça fait une sorte de sélection naturelle. Tu vois, je te parlais de la marraine de ma fille... qui est morte il y a quelques années, qui était une femme absolument exceptionnelle. Elle a eu une fille, elle a eu deux filles, et sa fille aînée a eu un accident quand elle était enfant. Elle a été brûlée par un bol de soupe, une casserole de soupe qui lui est tombée sur une sorte de pyjama des années 70, tu sais, en plastique.
Elle a survécu.
Elle a survécu, elle va très très bien. Et quand elle était à la maternelle, elle avait des traces de brûlures sur le décolleté, sur les bras, et puis... Et elle rentrait en pleurant en disant à sa mère, mais à l'école, ils me disent que... Et sa mère lui répondait, mais c'est génial, tu te rends compte, tu as à l'intérieur de toi une sorte de logiciel pour détecter les connards. Tu n'as besoin de rien faire d'autre. Les gens qui viendront vers toi, qui vont t'aimer, ça sera forcément des gens formidables. Et tous ceux qui vont se détourner de toi, ça sera forcément des nuls. Et aujourd'hui, elle a 30 ans, elle est en train de fêter ses 30 ans ce week-end. Elle est belle comme le cœur, elle fait mille choses passionnantes, etc. Et elle est très forte, j'imagine aussi, de cette histoire-là. Mais du coup, pour moi, voilà, le pyjama, la sincérité, voilà, moi, quand j'ai rencontré mon mec, je lui ai dit « je suis tétanisée, quoi. Je suis jamais repartie d'une fête avec un mec. Qu'est-ce qu'on va se dire dans le taxi? Au secours, on va faire semblant qu'on ne sait pas pourquoi on repart ensemble, alors qu'on sait très bien pourquoi on repart ensemble. Et moi, j'ai mal au ventre. Et est-ce que tu peux t'allonger à côté de moi dans sur le lit où on a mis les manteaux pour que je vois si je vais avoir une crise de panique ?» Enfin,
mais il a fait tout ça.
Alors, il a fait tout ça jusqu'au moment où il m'a dit « écoute, je vais quand même y aller. Oui. Donc, si tu veux, tu viens. Mais là, voilà. » Et donc j'ai décidé de le suivre et Dieu merci.
Ouais.
Mais c'était ma façon, c'était mon logiciel à écarter les connards. C'est-à-dire que voilà un type qui te dit écoute, t'es chiante ou écoute, c'est pénible que t'aies peur, écoute, ou qui t'entend pas ou qui comprend rien de ce que tu lui dis, bah ça aurait pas pu être l'homme de ma vie.
Ouais.
Tu vois ?
Ouais,
donc en fait, finalement, quand on cherche les vraies choses et qu'on veut des relations authentiques avec les gens, etc. Bah, c'est ça notre chance et c'est ça qu'on met tellement de temps à comprendre. Il suffit d'être soi. Si le résultat, tu vois bien, si au bout du chemin, ce que tu veux, c'est un truc vrai, eh ben, la chance qu'on a tous, hein, et on n'a pas besoin d'être ni parisienne, ni rien, la chance qu'on a tous, c'est qu'il suffit d'être nous-mêmes et puis le truc va se faire et se défaire en fonction de ça.
Naturellement, ouais.
Naturellement. Et quand on est jeune, c'est pas ça qu'on a en tête. On est dans la perversité de faire les questions et les réponses, en fait. C'est ce truc-là.
Et peut-être ta force aussi, en fait, en étant absolument toi-même dans ton angoisse existentielle, c'est que finalement, tu cherches pas à plaire. Enfin, tu vois...
Alors, c'est évidemment plus trouble que ça. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi dans la pratique de l'humour ashkénaze un truc... Mais... Je pense que là où c'est toujours une valise à double fond, c'est que par exemple, je pense que moi, pendant des années, j'ai pratiqué je me baladais avec une sorte de pancarte de 2 mètres sur 3 qui disait « moi, je suis nulle, je sais pas, au secours, comment font les autres ?» Et j'ai fini par comprendre que c'était quand même aussi une façon, de très inconsciente, hein, mais d'attacher les gens à moi sur la question de « elle est tellement sympathique, cette fille », pour évacuer la question du jugement sur est-ce qu'elle est valable, est-ce qu'elle est intelligente, est-ce que ce qu'elle fait, ça a de l'intérêt, etc., etc. C'est-à-dire comme si j'essayais de neutraliser leur capacité de jugement par une sorte de truc affectif où, tu vas pas tirer sur une ambulance, tu vois.
Ouais, c'est drôle.
Tu sais, comme quand les gens aussi, alors moi, j'ai appris aussi à me méfier de ça, tellement gentil,
ouais,
qu'en fait, ça cherche à neutraliser la violence de l'autre et en général à neutraliser même sa propre violence.
Ouais, c'est clair.
Mais
attends, pour tous les auditeurs vont se demander comment t'es devenue, tu vois, une femme scénariste, réalisatrice, écrivaine, et accomplir tout ça. Est-ce que au tout début, quand t'es enfant, t'as des disponibilités à l'écriture, un caractère littéraire? Quand est-ce que primaire, collège, comment?
On est une fratrie, j'ai 3 frères qui sont des gens de caïds en mathématiques, qui ont des boulots de maboule manteau dans la finance, l'engineering, le machin, enfin. Et en même temps, il y en a un des 3 qui est un photographe et grand artiste d'art abstrait, enfin, il y a une sorte de mélange des genres, mais quand même, tous les 3, ils sont très scientifiques.
Ok.
Et moi, dans un magasin, si tu veux, au moment des soldes, la seule étiquette qui me met à l'aise, c'est 50%. Mais 30% ou 70%,
le calcul est trop compliqué.
C'est ça, je transpire et je dois aller voir la vendeuse.
Je suis pareil.
Donc, je partais avec un tellement fort handicap du côté des sciences, des maths et tout ça. Ma prof de maths en terminale m'avait quand même conseillé de faire un CAP de coiffure. Enfin, vraiment, ça n'allait pas, quoi.
Ah, ok.
Que j'imagine que j'ai investi du côté du langage. Par ailleurs, j'ai des parents pour qui la langue française, la langue... la façon de s'exprimer, j'ai des parents qui sont des grands lecteurs, etc. Enfin, c'était essentiel. Donc, il y a quand même un truc de la transmission. Et du coup, j'ai le bah comme tous les enfants, j'ai écrit des journaux intimes, ouais. Tu vois.
Non, alors... figure-toi, pas tous les enfants. Ah quand bon même. Non.
Ouais. Bah alors voilà, ouais. Moi j'ai fait ça. Il y a quelques années, j'étais retombée sur l'un d'entre eux et j'avais quand même lu des trucs de l'ordre de je suis allée à la Boom d'Antoine Huet, j'ai dansé la New Wave, j'étais la star de la Boom.
Oh,
tu te dis bon, est-ce que ça valait vraiment le coup d'écrire un truc pareil?
C'est trop mignon.
Et au moment où on allait s'embrasser, quelqu'un ouais a rallumé la lumière.
Oh,
il avait
wow
écrit ça. Ouais.
Ah, et ça, je c'est me une scène de film.
Ouais, je me souviens très bien. Donc l'écriture, ça a toujours été là. Le cinéma aussi, en un sens, parce que ça, c'est vraiment un héritage maternel.
Ils faisaient quoi, tes parents ?
Alors, mon père, il était consultant, économiste, il a été prof à Sciences Po, maître de conf à Sciences Po.
Grosse tête.
Ouais, alors avec une sorte d'ascension sociale, parce que parents, fourreur, cordonnier, et puis plutôt évaporé en fumée. Donc voilà, quand il était adolescent et qu'il a dit à sa mère qui avait survécu à la Shoah, je vais faire Sciences Po, elle lui a dit, tu as raison, la maroquinerie, c'est un métier d'avenir. Parce qu'elle, elle a entendu les peaux, le cuir, tu vois, Sciences Po.
Oh, waouh, c'est fou, cette anecdote.
Et donc voilà, lui, il nous fait basculer complètement dans un autre monde. Et ma mère a pas vraiment travaillé dans sa vie parce que les femmes, on leur demandait quand même juste d'aller à l'école le moins longtemps possible et puis après de se marier et puis de faire des enfants, surtout quand elles étaient jolies.
Elle venait d'une famille bourgeoise.
La petite bourgeoisie, oui, parisienne, enfin voilà, rien de notable. Si ce n'est que son père était quand même déjà, comme mon frère, photographe.
Ah.
Et qui faisait, en fait, c'était les concurrents des studios Harcourt. Lui, okay, il dirigeait le studio Valois, donc il faisait des portraits de comédiens et de comédiennes. Peut-être que c'est ça. Et je crois que son père l'emmenait énormément au cinéma. Ah. Et donc le cinéma a toujours été une sorte de valeur,
rêve.
Ouais. Une chose qu'on admire et puis qui emmène ailleurs et qui rend heureux. Donc voilà, moi le cinéma est rentré dans ma vie au moment de L'Effronté. Avec
ouais,
Charlotte Gainsbourg, j'ai l'âge de son personnage.
Ouais.
Voilà. Et je sors de ce film en me disant, elle c'est moi, je suis elle.
Ah, il est trop beau ce film.
Ouais. Voilà, on veut toutes porter des mini-jupes en jean et des marinières.
Et on n'y arrive pas.
Et ça, moi, j'y suis jamais arrivée, c'est sûr. Mais ouais. La marinière peut-être, mais
peut-être,
avec
ouais
une salopette plutôt.
Ouais.
Donc le cinéma arrive quand même assez vite.
Tu fais quoi comme bac littéraire donc et puis ensuite
ouais,
des études de...
Non, je fais un bac A1, figure-toi, à l'époque il y avait quand même des maths, donc j'ai un bac à 10-0-0 parce que j'ai 4 en maths, donc c'est quand même une catastrophe. Et puis après je me perds un peu, je zone, en fait a posteriori je pense que je fais une dépression, mais okay, sur le moment c'est pas du tout ça, que
ouais,
je ne sais pas quoi faire de ma vie.
Comme plein de jeunes gens,
voilà,
je crois.
De ma carcasse. Ah ouais, alors ne vous inquiétez pas, il y a un moment où ça,
ça
prend
s'arrange
son chemin, ça s'arrange. J'entre au cours Florent, j'ai envie d'être comédienne. En
okay
fait, je veux qu'on me voie, je veux qu'on m'aime. Mon énergie est vraiment pas du tout au bon endroit, je pense. C'est-à-dire que je veux un truc, c'est comme quand on veut aller mieux,
ouais,
mais qu'on comprend pas ce qu'on doit changer. Juste, on est obsédé par aller mieux, être heureux.
Ouais.
Non, bon, évidemment, ça ne marche pas.
Ouais.
C'est comme au plumard, quand ton seul truc c'est je veux jouir, tu peux être sûr que ça
ne viendra
pas. Voilà, ça
ne
se passe pas bien. Et donc moi je pense que j'étais dans un truc comme ça, et puis tellement encombrée par mon enfance, mon histoire, la Shoah, tout ça, ça pesait une tonne. Donc aujourd'hui, effectivement, si tu dis « Ah, Yael, elle est scénariste, réalisatrice, elle écrit », ça a l'air genre trop « waouh ».
Ouais.
Mais c'est, tu sais, vraiment la cohérence a posteriori.
Mmh.
C'est-à-dire que ça ne s'est pas du tout construit comme un truc cohérent.
Ouais,
ça a été que des histoires de rencontres,
ouais,
et de chance dans les rencontres et de, alors peut-être de disponibilité,
ouais,
quand
même,
à quand même ce que j'aimais dans la vie. C'est-à-dire que j'aimais écrire, j'aimais voir des films. Donc c'est ça qui m'a prémunie de partir faire une école de commerce. Ça, on est bien d'accord. Mais
oui.
Mais quand même. C'est un drôle de truc parce qu'à la fois, j'ai la sensation d'avoir tout le temps tapé sur le même clou et que, Dieu merci, il a fini par rentrer dans le bois. Et putain, c'était pas facile.
Ouais.
Et en même temps, donc il y a une forme de détermination là-dedans et de
ouais
d'obstination. Et en même temps, j'ai toujours avancé masquée, mais même pour moi-même.
Ouais.
Toujours avec ce problème d'inhibition du désir.
Ouais.
En fait, C'est pas, il y a des gens, moi j'envie vachement les gens qui à 14 ans disent en fait moi je, c'est la pâtisserie mon truc dans la vie quoi. Mmh. Et après et ben voilà, tu déroules le fil, tu vois tout ce que tu dois mettre en œuvre pour arriver à devenir pâtissier. Mmh. Et moi j'avais plein de choses à mettre en œuvre et de l'énergie et peut-être du talent pour certaines ouais. choses et tout ça, mais je ne savais pas ce que je voulais atteindre à part sans doute, et c'est là où je dis du coup l'énergie était sans doute pas au bon endroit, bah, je voulais qu'on me voit quoi, ouais. je voulais qu'on m'aime, je voulais qu'il y ait quand même une forme de reconnaissance, ouais. un truc...
T'étais la quatrième donc de...
Non, la troisième, la dernière de, du mariage entre ma mère et mon père.
D'accord.
Et puis j'ai un demi-frère mais qui n'a rien de demi, qui est tout à fait mon frère et notre frère, qui lui est du côté de notre père.
D'accord.
Et qui lui a grandi seul, alors on se voyait les week-ends et tout ça, mais on a quand même une grande différence d'âge et tout ça, donc le substrat commun de l'enfance, je l'ai vraiment avec mes deux frères aînés, même si j'ai des souvenirs avec mon demi-frère, mais c'est vraiment avec mes deux frères aînés qu'on a partagé, le pris des bains ensemble.
Ah ouais.
Moi je dis toujours, mes frères aînés, je les ai vus tout nus, mon petit frère non, tu vois, ça marque quelque chose quand même de partage de l'intimité ou pas quoi.
Ouais, c'est drôle, bah, c'est marrant, mais j'ai reçu récemment une auditrice. Il y a un bruit ?
Ouais, je pense que ton frigo s'est déclenché ou quelque chose de ce
genre. Ouais, c'est ça. Mmh. Ah, c'est embêtant. Mais pourquoi il se déclenche mon frigo ? C'est chiant ça.
Peut-être qu'il est réglé, c'est-à-dire que tout d'un coup, t'as une sorte de comme un thermostat, et quand il arrive à une température pas assez basse...
C'est un nouveau frigo, on me donne que des mauvais conseils. En fait, j'avais un frigo qui fonctionnait, mais qui était cassé, parce qu'il y avait tout le temps de l'eau dedans. Mais bon, il faisait pas de bruit. Mais tout le monde arrivait chez moi et me disait « Oh, bah ton frigo, regarde, il y a plein d'eau. » Ah bah oui, mais je vais pas le laisser ouvert pour qu'on ait le bruit. Et résultat, il m'a dit « Il faut que tu changes de frigo, il faut que tu changes de frigo. » J'ai changé le frigo, ça m'a coûté une blinde. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est cassé ou quoi ?
Non, c'est juste un cache, c'est pour que la vis ne frotte pas contre le joint quand tu fermes le frigo.
Oh merde, attends, je vais... Hop, bon, tac, voilà. Et résultat, j'ai ce nouveau frigo, mais c'est pas la première fois que... Tu vois, quand je le ferme, il met du temps...
Ouais, mais surtout, il n'est pas du tout censé faire ce bruit-là.
On est d'accord, il n'est pas du tout censé faire ce bruit-là. Comment ça se fait que c'est un super...
Bah, sauf si
c'est chiant,
tu l'as acheté 90 euros.
Non, tu rigoles, je l'ai acheté 700 balles à Darty.
Non, ça ne va pas.
Il va falloir que j'appelle Darty, que je leur explique. Ils vont me dire, ah bah non, c'est normal. Il va falloir que je leur dise, non, c'est pas normal. Je demanderai à mon père de m'aider pour ça. Je vais l'appeler, je vais lui dire. On est d'accord, c'est pas normal.
C'est pas normal.
Ah, bah ça me rassure, donc je suis pas folle. Parce que je me disais, comment ça se fait qu'il fasse ce bruit ? C'est chiant.
Non, mais un frigo, normalement. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu regardes la marque et tout ça, et tu vas voir sur sa fiche ce qu'il dit en termes de décibels. Mais ça,
ça c'est insupportable, plus personne ne vit avec ça. C'est hyper relou d'avoir un frigo qui fait du bruit.
Un petit peu. Enfin, disons qu'il y a quelqu'un dans la pièce, quoi.
Oh là là, j'en peux plus. Tu vois, ça, c'est l'un des... Là, c'est... En fait, je suis hyper solitaire et franchement... Mais mon célibat me pèse pile dans ces moments-là. C'est pas... Vraiment, c'est vraiment pas... tu vois, c'est pas frustration affective ou sexuelle. Franchement, affective, j'ai mon chat. Sexuelle, j'ai mon womanizer. Franchement, j'ai tout ce qu'il faut. Mais là, dans ces moments... tu vois, je vais appeler mon père, mais tu vois, si j'avais un mec qui lui en plus saurait faire ça, parce que tu sais, on parlait d'angoisse, moi appeler les services d'Arty pour leur expliquer qu'ils me prennent pour une conne parce que j'ai pas les bons mots,
voilà, passer du tachycarde avant le coup de fil.
Ah ouais, et puis j'ai tellement de trucs à faire en retard à cause de ça, donc oh là là, puis ça va être attends, on va laisser juste une toute petite minute de blanc. Et ensuite, moi, au montage, je ferai un travail sur le son. Alors, attends. Voilà, c'est pas la peine de faire une minute, c'est juste quelques secondes. Je prendrai le son et ensuite, je ferai réduction du bruit de fond. Bon, au moins, la bonne nouvelle, c'est que grâce à toi, Yael, je sais que c'est pas normal.
Alors, on peut souvent me solliciter pour que la conclusion, ça soit « c'est pas normal
». Oh là là. Donc, on en était au thé au cours Florent. Tu veux plus ou moins être actrice, mais finalement...
Et en fait, non. Je trouve toutes les nanas tellement canons que je me dis, bah, en fait, c'est pas du tout ma place. Je vais me retrouver à faire une pub pour le pâté. Ça va être hyper humiliant et tout ça. Enfin, en fait, à ce moment-là, je confonds tout. Je ne comprends pas qu'on peut tout à fait être comédienne, même si on n'a pas 1m10 de jambes. Et bon... Mais en fait, je suis perdue au fond. Je suis perdue et j'erre de possibilité de vie en possibilité de vie. Avec le recul, bah, c'est forcément constructif parce que c'est quand même des moments dans lesquels on travaille son désir précisément et qu'on se dit bah, ça, non, bah, ça, j'y arrive pas. Bah, ça... Mais ça prend quand même vachement la forme d'échec à répétition. Donc, c'est pas très agréable.
Ouais, c'est dur.
Ouais, je suis en coloc. Dans une relation qui démarre, genre on est quasi amoureuse l'une de l'autre et qui se termine dans un bain de sang, donc ça c'est pas génial non plus. Pareil, et puis après je m'inscris à la fac à Jussieu en lettres, je vais pas en cours tellement parce que ça m'ennuie, donc je mens à mes parents, enfin vraiment des années, si tu veux, entre le bac et le moment où je me retrouve miraculeusement à rentrer directement en Cagne à Fénelon.
Okay.
Sans faire d'hypocagne, sans... Mais les années entre les deux, c'est... Tu les prends, tu les chiffonnes, tu les mets à la poubelle, et puis voilà, quoi.
C'est 2 ans.
Oh, c'est plus que ça, parce que c'est 17, et moi, je suis rentrée en Cagne, j'avais 22 ou 23 ans.
Ah, mais t'as eu ton bac à 17 ans.
J'ai eu mon bac à 18. Je venais d'avoir 18 ans.
Ok. Ouais. Donc, parce qu'aujourd'hui, tu rentres en Cagne après le bac, mais ouais. À l'époque, tu pouvais...
Non, tu rentres en hypocagne d'abord, ouais. Après le bac, ouais. Et puis après l'hypocagne, tu rentres en Cagne. Mm-hmm. Et à l'époque, tu pouvais rien du tout. C'est juste qu'à l'époque, à Fénelon, il y avait une femme. Tu vois,
incroyable. Même,
moi, j'ai vraiment des fées au-dessus de mon berceau. Hein.
Ouais.
Il y avait une femme qui s'appelait Gainswittel, qui était une proviseure iconique. Moi, je ne la connaissais pas du tout, mais... J'avais, parce que j'avais vu le petit frère de ma meilleure amie d'enfance, enfin au lycée, c'était ma meilleure amie, remplir des papiers pour rentrer en hypocagne, donc j'avais demandé ce que c'était. Puis je trouvais qu'il avait l'air assez enthousiaste quand il m'en parlait, donc je me suis dit, bon, bah voilà, pourquoi pas.
Ça a l'air cool.
Et donc, ça a l'air cool. J'ai envoyé des lettres dans les lycées parisiens en disant, en fait, je voudrais bien faire une hypocagne. Tout le monde m'a répondu une sorte de lettre, genre, ben non, merci, au revoir. Et j'ai reçu un coup de fil. Madame Gainswittel voudrait vous rencontrer. Je ne savais même pas que le lycée Fénelon était un très bon lycée. Rien, je ne savais rien. Et ce qui a à voir aussi avec l'inhibition, parce que je n'étais pas d'un milieu dans lequel j'étais censée ne savoir rien.
Ouais.
Tu vois, j'étais au lycée
Durruy. Ton père était quand même prof à Sciences Po.
Ça n'aurait pas dû m'échapper, ce que c'était Normal Sup, etc. Donc, il y avait quand même un truc...
Un décalage.
Déjà un truc bizarre. Et je vais à ce rendez-vous, il y a une femme qui m'ouvre, je me souviens, avec une sorte de blouse de la Camille, avec des fleurs. Je suis au bord de lui dire « Bonjour madame, la femme de ménage, pouvez-vous m'amener au bureau de la proviseure ?» Dieu merci, je ne le fais pas vu que c'était elle.
La proviseure.
Et on passe 2 heures d'entretien pendant lesquelles je lui dis, elle me demande si j'ai mes bulletins et tout ça. Je lui dis, mais non, en fait, j'ai fait ma crise d'adolescence sur mes études, en fait, je vais payer ça toute ma vie et j'ai peur. Et au bout de 2 heures de conversation, elle me dit « Vous avez le sourire franc, le regard honnête, j'aime les oiseaux rares. » Elle était assez barrée, hein, cette nana.
Ouais.
Et elle me prend en cagne en me disant « Votre maturité fait que vous allez vous ennuyer en hypocagne. Je tente le coup. » Et elle ne prévient pas l'équipe pédagogique. Ce qui fait que quand
elle t'impose.
Ouais, voilà, elle me rajoute à la liste des élèves. Et ce qui fait que quand je passe ma première colle d'histoire, donc déjà le principe des colles, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Donc quand le prof, le premier jour, fait passer un tableau de colle dans lequel on doit s'inscrire, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'à l'avance, on se punit, on sait qu'on va faire... Enfin, je ne comprends rien de ce qui se passe. Pour moi, la colle, c'est quand tu as fait une connerie et que tu as 2 heures de colle, quoi, tu vois. Bon. Et en fait, non, c'est une sorte d'examen oral. Enfin, c'est un petit entraînement oral. Tu passes une colle sur tel sujet. Et donc, je passe ma première colle en histoire sur la circulation des idées dans la ville de 1750 à nos jours. Je travaille au CDI comme je peux avec des gens qui, eux, ont fait une hypocagne et qui, du coup, m'aident, me filent un peu des trucs et tout ça.
Sympa.
Très sympa. Et j'arrive à ma colle et le prof doit enlever ses lunettes pour essuyer les larmes de rire qu'il a coincé dans le bas de sa monture. Et je termine ma colle, il me dit « Excusez-moi, mais où avez-vous fait votre hypocagne ?» Et je lui dis « Mais j'ai pas fait d'hypocagne, je sors des cours Florent. » Et là, il me dit « Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. » Et en fait, ces profs m'ont pris sous leur aile.
Incroyable.
Et fait bosser. Et donc, je passe le concours de Normal Sup. Je le rate, mais pas atrocement. Donc, cette proviseure au mois d'août m'appelle en me disant bah, « Compte tenu du fait que vous veniez quand même de la planète Mars, vous savez quoi ? Vous allez recommencer. »
Tu doubles ta cagne.
Donc, je double ma cagne. Et là, je vis pour le coup des années merveilleuses parce qu'en fait, j'arrive en cagne avec un enjeu complètement différent de ceux qui arrivent depuis, qui savent depuis la classe de seconde qu'ils veulent rentrer à Normal Sup. Et genre, ils ont les dents.
Des crocs, c'est terrible.
Encastrés dans le parquet.
Ouais, c'est trop.
C'est trop, quoi. Et moi, je vis ces années comme la chance.
Une bénédiction.
De rétablir un truc. Tout d'un coup, pour mon père, je cesse d'être un tube digestif ambulant. Et voilà, il se met à me considérer genre, en fait, il n'y a pas que du fromage blanc entre ses deux oreilles. Donc, je sauve ma peau, en fait, à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, n'ayez pas peur, ça peut prendre du temps. Mais voilà, dans le meilleur des cas, on trouve son chemin.
Tu disais aussi que ta grand-mère trouvait ça bien, les peaux.
Ouais, c'est vrai. Ouais, sauver sa peau, c'est quand même un sacré truc. Ben, oui, c'est vrai. Mais donc voilà, et en revanche, quand je sors de Cagnes, il est question de la grecque, et franchement, j'en ai un peu plein le cul des concours.
Ah ouais,
tout ça.
Enfin,
ouais, j'en ai ras-le-bol, mais je sens bien que mon père, qui à l'époque finance mon loyer, pas le reste, hein, donc je fais plein de petits boulots et tout ça, mais il finance quand même mon loyer. Je sens bien que si je lui dis je repars pour un concours, ben il continue à être dans le game, comme disent les Québécois, mais sinon, non, et je vais devoir me démerder. Et du coup, c'est comme ça que j'envoie des lettres de motivation dans des boîtes de production de cinéma.
Ah, pour pas passer la grègue et devenir prof.
Pour pas passer la grègue et devenir prof, en me disant, en fait, je vais bifurquer vers le cinéma.
Okay.
Et je demande au CNC de m'envoyer la liste des sociétés de production à Paris. Et je choisis MK2, je me souviens très bien, parce que je me dis, c'est pas loin de chez moi, et le mec a un nom juif, je pourrais avoir mes chances. Enfin, tu vois, le truc complètement absurde.
C'est drôle.
Vu qu'évidemment, c'est pas Marine Karmitz qui ouvre ma pauvre lettre de demande de stage, si tu veux, tu vois.
Attends, entre la double cagne et MK2 et le choix de bosser dans la prod, c'est quoi le premier tressaillement vers le cinéma ? C'est le fait que ta mère y allait beaucoup ?
Le cinéma est vraiment dans la culture familiale du côté de ma mère depuis toujours. Et ma mère est pas forcément quelqu'un de très heureux. Et quand il s'agit de cinéma...
Ça la rend heureuse.
Ouais, et quand il s'agit... Et je me souviens, par exemple, que regarder les Césars à la maison... Pendant des années, on n'a pas de télé. Et c'est un souvenir, je ne sais pas si c'est réel ou inventé. J'ai l'impression qu'une fois, on avait loué la télé pour pouvoir regarder la cérémonie des Césars. En tout cas, dans mon souvenir, au moment des Césars, il y a un truc qui s'allume complètement pour elle et... Et voilà, peut-être qu'elle avait... Je crois d'ailleurs qu'elle avait eu, elle aussi, ce désir d'être comédienne, etc. Donc, je pense en fait que mon désir de cinéma, il est très articulé sur mon désir de lui plaire.
Ok.
Voilà.
Et donc, tu arrives à MK2 en tant que stagiaire ?
J'arrive à MK2 en tant que stagiaire. J'ai un DEA de lettres que j'ai fait sur Georges Perec, pour lequel j'ai une passion. J'ai écrit une lettre à MK2, genre je serais mais tellement motivée pour faire ce truc que je sais même pas comment il s'appelle, que voilà, parce que je ne savais pas en fait ce que je voulais. J'ai vraiment toujours faire les choses sans savoir les nommer.
Ouais, mais avec une intuition quand même. Que tu voulais pas être prof.
Ouais, voilà. Alors, savoir ce que je veux pas, ça fait longtemps que je sais. J'ose pas toujours le dire, mais ça fait longtemps que je sais.
Et ton père, il fait pas trop la gueule vis-à-vis de la grecque, que tu le passes pas ?
Non. J'ai l'impression que non.
Ok.
Je rentre chez MK2 en stage très vite, grâce à Christine Ravet. En fait, je la remplace. J'ai presque 20 ans de moins qu'elle. Enfin, un truc. Mais à l'époque, je me rends pas compte que arriver au Festival de Cannes sous la bannière MK2 pour chercher des films à 24 ans, c'est
incroyable.
Voilà. Et en fait, je passe complètement à côté de ce truc-là. Juste, moi, je fais caca mou dans les toilettes du Martinez tellement j'ai peur. Donc, j'ai vraiment rien à voir avec un moment de consécration ou quoi que ce soit. Et je fais après l'écriture. Je comprends en recevant des réalisateurs et des réalisatrices assez peu déjà à l'époque. Mmh. Mais je comprends que je suis du mauvais côté du bureau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, c'est marrant. Dans ce bureau, il y en a un des deux qui se fait chier. Et je crois que c'est moi. Et donc, je comprends qu'en fait, je veux me mettre à écrire.
Ouais.
Et du coup, le scénariste me vient comme, mais c'est génial, j'ai toujours aimé écrire, j'adore le cinéma, je vais écrire pour le cinéma. Là, tout d'un coup, obvious.
Ouais.
Et donc, je vais voir Carmis, à qui je demande la permission de faire le conservatoire d'écriture européen audiovisuel. Et il a l'intelligence de me dire, c'est toujours une richesse pour l'entreprise quand un salarié fait autre chose, évidemment, allez-y. Alors que même si c'était pour des gens qui avaient déjà du travail, c'était 2 jours ou 3 jours par mois, 2 soirées par semaine. Enfin, ça allait clairement me prendre du temps sur ce que je devais à MK2, quoi.
Ouais, ouais, mais ils te le donnent, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, je continue à lire tout autant les scénarios, à visionner les films. Enfin, je ne fais pas défaut à MK2 pour autant.
T'es distributrice à ce moment-là ?
Non, je ne suis pas distributrice. Il y a un département de distribution dans lequel je travaille avec eux. C'est-à-dire que si je lis des scénarios dont je me dis c'est tellement formidable, évidemment, j'en parle à la distribution. Puis souvent, la distribution fait des projections de films et j'y vais aussi. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, je faisais des lettres type de comité de lecture. En fait, j'étais le comité de lecture à moi toute seule. Le comité de lecture a décidé que, c'était moi. Et en fait, assez vite, Carmitz me dit « Arrêtez de me faire passer toutes vos fiches et tout ça. En fait, juste indiquez-moi les choses que vous trouvez valables. »
Ok.
Donc, il y a une sorte de relation de confiance. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours une réputation, qui ne fait pas toujours l'unanimité. Avec moi, il a été absolument impérial. C'est une époque pendant laquelle mon père est tombé malade, il est mort en 5 mois, et Carmitz est venu le jour de l'enterrement. J'arrive au cimetière du Montparnasse et il y a Carmitz avec sa kippa sur la tête. Je ne l'ai pas prévenu, je ne sais pas comment il est là, mais il est là.
Wow.
Et ça compte vachement pour moi. Enfin, et puis il est le premier à m'avoir donné cette chance comme ça, complètement dingue.
Confiance. Que donc tu recrutes, en fait, ton poste, c'est... Donc, tu reçois les projets, tu lis les scénarios.
Je lis les scénarios. Alors, à la fois le tout venant qui arrive par la poste et en même temps, je peux lire un film de Chabrol, je peux...
Pour la prod.
Pour la prod, voilà. Exactement. C'est comme ça que je vais à Cannes, c'est comme ça... Voilà. Et puis, il y a un moment où, en fait, il aurait fallu que je fasse une sorte de bascule, il aurait fallu que je devienne plus engagée du côté de la prod, que je prenne à ma charge des vrais développements, ce que je pouvais faire de façon un peu sporadique et tout ça. Et là, encore une fois, je comprends que ça, je ne suis pas sûre d'en avoir envie.
Ok.
Je fais le conservatoire d'écriture, je découvre l'écriture de scénario. Et en fait, à la fin du conservatoire, assez vite, je décroche un contrat d'écriture pour une série qui va passer sur France 2, qui s'appelle H Sensible. On est 4 à travailler à cette série. Et il y a notamment Michel Leclerc. Et moi, comme je bosse honnêtement sur les 4 personnes qui inventent la série, je ne fais pas partie de ceux qui travaillent avec le plus d'assiduité parce que je ne le peux pas vraiment. Enfin, je suis quand même déjà très engagée. Mais au moment où je signe mon contrat d'écriture... Je vais déposer ma démission. Je rentre dans le bureau de Marine Carmitz avec la voix qui fait comme ça.
Ouais.
Parce que j'ai plus de papa. Et Carmitz, il est quand même devenu pour moi,
deuxième...
du coup, il ne le sait pas.
Ouais.
Mais en tout cas, moi, en termes de fantasme...
Une figure...
Une figure super forte et super importante pour moi. Et je dois trouver le courage de lui dire « je m'en vais ». Et il est très élégant avec moi... Je vois que quand il voit que je suis très émue, il se met un peu à me tourner le dos, l'air de rien, comme s'il regardait un truc sur son ordinateur.
Parce qu'il est ému aussi.
Je sais pas si c'est parce qu'il est ému, mais en tout cas, il veut pas m'imposer le regard qu'il a sur cette émotion.
Un mensch.
Très élégant. Et surtout, quelques jours plus tard, je suis convoquée par la DRH qui me dit « En fait, Marie ne veut pas de ta démission. » Enfin, c'est pas ça... C'est pas comme ça qu'on va faire. On va faire un accord amiable et du coup, tu vas pouvoir toucher le chômage.
Waouh ! Ouais, très très cool.
Ah ben, au-delà. C'est-à-dire je pars avec un contrat d'écriture et en même temps, j'ai 2 ans devant moi de presque la totalité de mon salaire. Enfin, donc, je me lance avec un truc incroyablement confortable, quoi. Et puis, quelqu'un qui m'a sécurisé. Enfin,
qui t'a donné des ailes, quoi.
Ouais, l'envol dont tu rêves, ouais. Oh, c'est ça, exactement. Ouais.
Donc, il y a aussi des hommes qui t'ont donné des chances.
Ouais,
pas que
c'est
des
vrai. Ouais. C'est arrivé par une femme, mais je suis très, très, très reconnaissante à Marine Carmitz de ce que j'ai vécu chez MK2.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du fait, en fait, c'était la première fois qu'on me demandait mon avis, quoi. Enfin, voilà, et que ça avait du poids, que visiblement, quand je disais ça c'est bien, ou ça c'est pas bien, ou ça je trouve qu'il faudrait le lire, ou ben voilà, ça avait du sens et ça avait du poids. Et
tes parents, ils avaient pas su te donner confiance en toi? Enfin, ils te disaient pas c'est génial, ma chérie, ou ils témoignaient pas de fierté, ni l'un ni l'autre?
Non.
Ah ouais, ouais.
Non, ça, j'ai pas vraiment grandi dans un climat comme ça, très sécurisant. Je pense que c'est des gens qui étaient très encombrés d'eux-mêmes et de leurs propres problématiques. Et puis, je crois aussi que l'avènement de la psychanalyse, alors tu me diras, ils sont contemporains de ça, et moi, j'ai plein de copines et de copains dont les parents ont été chez des analystes et tout ça, hein, mais eux, c'était pas leur cas. Et je pense que la place de l'enfant, c'est assez récent, en fait, qu'on se dise qu'on doit valoriser. On pense tous qu'on a que les parents ont un contrat d'amour inconditionnel avec leur enfant et que la job, ça consiste à leur dire qu'ils sont merveilleux. Mais non, en fait, d'abord, il y a plein de parents qui
sont plus à la dure.
C'est pas ça le contrat. Et moi, mon père, il nous élevait plutôt dans l'idée qu'il fallait qu'on soit dans une sorte de camp de survie au cas où les nazis reviennent, fallait qu'on soit imputrescible. Donc moi, je te le dis, Rosa, s'il y a la guerre, tu me prends dans ton équipe parce que je suis bonne.
Non, mais
je suis très performante contre l'adversité.
C'est un truc d'Ashkenaz de fou. Mais attends, ça, c'est aussi pour, peut-être pour ça qu'on a aimé les confinements, c'est parce qu'on était tellement prêts. Je sais que mon père et son frère, mon oncle avait déjà, à l'avance, commandé des masques de Chine.
Alors que le gouvernement disait que ça servait à rien. Ouais. Mais alors nous aussi, on était dotés en masques très en amont de tout le monde, cachés dans notre cave, et genre on n'en parle à personne, pas parce que on veut pas, mais parce qu'on va nous prendre pour des fous. On va nous prendre pour des fous, mais nous on sait qu'on peut être seul à avoir raison contre le monde entier.
Mais ouais.
Non. Donc effectivement, du côté de mon père, c'était ça, et du côté de ma mère. Elle avait été elle-même élevée par une mère qui lui avait fait défaut en un sens et qui l'avait pas aimée comme elle aurait voulu. Et puis cette grand-mère elle-même avait cette histoire-là avec sa mère. Enfin, il y avait une sorte de.
Et ta mère s'est pas dit, ah, je vais donner un amour fou à ma fille en lui disant à quel point je l'aime tous les jours pour corriger ce défaut-là, non?
Non, parce que peut-être qu'elle avait pas complètement fait l'analyse que c'était ça son propre caillou dans sa chaussure. J'en sais rien, c'est très difficile de parler à sa place. Ce que je peux dire, c'est que j'ai pas grandi dans un climat de réassurance et de confiance. Et puis voilà, j'étais enfant de parents divorcés à une époque où ça se faisait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui. Famille de gauche à Versailles.
Tu me disais.
Voilà, famille juive. Enfin, je n'avais
très ostracisée, quoi.
Pas forcément ostracisée, même si je me souviens effectivement à l'école qu'on m'a dit pourquoi vous avez tué le petit Jésus qui était si gentil. Donc bon, mais la question de la place et de comment gagner ma place, j'ai l'impression que c'est une question qui s'est posée à moi tout de suite. Mes parents se séparent quasiment après ma naissance.
Ah oui.
Et donc il y a un truc sur ma légitimité, c'est-à-dire... Comment vous l'avez vraiment... Alors, ma mère m'a toujours dit que j'avais été une enfant désirée et qu'elle avait eu très envie d'avoir une petite fille, etc. Mais pour autant, je pense que c'était une femme très malheureuse dans son couple et que du coup, avec les enfants, ça passe, ces choses-là. Enfin,
bien sûr.
C'est même quand on dit rien, même quand, en fait, les bébés, dans tous les livres de pédiatrie, il y a ce truc de les bébés sont des éponges.
Ils ressentent tout, ouais.
Et je pense que c'est assez vrai. Donc moi, j'ai grandi, je suis née avec une maman qui était très malheureuse dans ce qu'elle vivait. Et du coup, je pense qu'elle n'avait pas la place pour se retourner vers moi
et
me sécuriser, me conforter. Et elle n'en était pas là. Elle devait gérer cette idée qu'il fallait qu'elle quitte le père de ses trois enfants, qu'elle habitait à l'autre bout du monde.
C'est elle qui l'a quitté
au Venezuela. C'est elle qui est partie.
Ah ouais, d'autant plus.
C'était difficile ce qu'elle avait à faire. Et d'ailleurs, elle est partie sans rien, parce que mon père, qui était au-delà de radin, ne lui a rien laissé, rien donné.
Oh.
Donc, du jour au lendemain, elle se retrouve quand même, dans les années 70, elle est une femme seule avec trois enfants. Alors, elle vient de rencontrer l'homme avec lequel elle vit toujours. qui a été une sorte de seconde chance, enfin, ouais, dans sa vie, mais voilà, je...
Courageuse, mais dans la...
Courageuse et très résistante, et du coup, sans doute qu'elle n'a pas complètement été la maman qu'elle aurait même voulu être, mais pour le coup, la symbolisation par l'écrit et par le livre, ça a vachement bien fonctionné, parce que aujourd'hui, j'ai plus une once de colère, enfin je suis plutôt dans... j'ai découvert la vertu du pardon et c'est délicieux ça.
Ouais, c'est ouais. Ce pardon là dont tu parles dans la dernière page.
Ouais, cette chose qui te rend empathique, enfin en fait c'est vraiment l'acquisition d'une liberté incroyable que de comprendre que le passé est terminé. Et les Ashkénazes, on n'est vraiment pas fort à ça parce que non. Comme on a un devoir de mémoire évidemment, alors comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais peut-être que nous, à notre place, voilà, un peu plus. Et du coup, ce lien qu'on a très fort avec le passé, il nous oblige à plein d'endroits. Il nous oblige aussi dans les liens de souffrance et dans les liens névrotiques. Et en fait, moi, ça faisait des années que je cherchais à couper ce lien. Et, alors, tu sais, j'ai vu des magnétiseurs, des énergéticiens, des machins, tout un tas de... Et à chaque fois, je disais, mais moi, je sens que ma nature, c'est d'être une montgolfière et de m'envoler. Et j'ai des sacs de sable au cul. Wow. Et je ne trouve pas comment, avec une hache, je ne trouve pas comment scier la corde. Alors, la corde, le cordon, là, tout ce que tu veux, tu vois, mais... Et vraiment, je cherchais ce chemin-là, et en fait, c'est par l'écriture que je l'ai trouvé. C'est-à-dire que le lac est magique, mais il est devenu magique dans l'écriture. Au moment où je me suis baignée, j'ai vécu ce truc de ouf avec ces meufs à poil et cette nature tellurique de dingue et
bien
tout.
Bien sûr.
Mais c'est dans la sublimation par l'écriture que la magie a complètement... Et d'ailleurs, j'ai écrit en 3 semaines complètement sous hypnose, enfin, dans une espèce d'état de transe dingo. Après, j'ai travaillé l'éditrice, etc. Mais le premier jet, et tu vois, ça dit jet, il y a plein de métaphores communes entre l'eau et l'écriture, et je pense que c'est pas du tout un hasard. Et en ce moment, il y a plein de papiers. Il y a Colombe Schneck qui a sorti un livre sur les piscines, Chantal Thomas sur la nage, Constance Debray qui parle beaucoup du fait qu'elle nage comme une dingue et tout ça. Enfin, il y a plein d'écrivains qui réfléchissent évidemment à ce lien entre l'eau et l'écriture. Et moi, au fond, tout en dessous du lac magique, dans la terre que je ne pouvais pas voir en faisant la planche, parce qu'en plus, j'avais plutôt tendance à regarder le ciel, il y avait une capacité de pardon que j'ignorais que j'avais. Et alors, pour le coup, ça, je le souhaite à tout le monde, parce qu'en fait, je pense que la liberté, elle est fondée là-dessus, sur la capacité à se dire « c'est terminé, je n'en souffre plus ».
Waouh, c'est trop beau. Est-ce que, juste avant que je te pose les questions du questionnaire de Proust, tu rentres, t'écris la série H? Ensuite, pendant...
Pas H, hein, âge sensible.
Âge sensible, ouais. Oui.
Ouais, j'aurais bien aimé, ouais, hein, ça serait allé beaucoup plus vite pour moi. Mais...
et donc ensuite, voilà, et ensuite t'es scénariste, réalisatrice, tu travailles aussi un peu avec ton mari pendant...
Ouais,
voilà.
Ouais, mon mari, il est réalisateur, on co-écrit un film ensemble, on essaye plusieurs fois, et puis au début, moi, je me prends les pieds dans le tapis sur les questions de légitimité, tout le bordel. Il a évidemment beaucoup plus d'expérience que moi, il est plus âgé que moi, il est tombé dedans quand il était petit, enfin, il a beaucoup d'avance par rapport à moi, je le trouve très doué, très tout, et moi, je me trouve plutôt moins tout, donc, ou pas assez tout. Donc au début, ces tentatives de collaboration sont des échecs. Et puis un jour, ça fonctionne. On écrit La nouvelle vie de Paul Schneider, qui est une adaptation de Jean-Paul Dubois, avec Thierry Lhermitte dans un rôle complètement à contre-emploi, vu que c'est l'histoire d'un mec qui fait une dépression, et qui devient dog walker à Montréal en hiver. Et donc on découvre Montréal à ce moment-là, parce pour sentir vraiment ce que c'est la neige, on part à Montréal.
Ouais.
Et pas longtemps, hein, quelques jours, mais voilà. Et en fait, on tombe en amour avec cette ville, et c'est comme ça qu'on décide, quelques temps plus tard, d'aller y vivre. On part en famille pour un an, et c'est à cette occasion-là que je découvre le Québec, le lac et tout le bordel.
D'accord. Et finalement, vous êtes revenue en France.
Et finalement, on est revenu en France. Mon mari, il a une opportunité. On lui propose de réaliser une série anglaise complètement dingo et qui d'ailleurs propulse sa carrière jusqu'à Hollywood.
Ouais, incroyable.
Incroyable. Et donc, moi, j'hésite à rester. Je suis tellement heureuse avec les filles à Montréal. J'hésite à rester à Montréal. Et puis quand même, je me dis, waouh, c'est pas rien.
Je vais le buter, ce frigo. Je suis d'autant plus en colère maintenant que je sais que c'est pas normal. Je sais que j'ai subi des abus de la part de ce frigo.
Oui, c'est ça.
Et c'est dommage parce que j'allais vers le chemin du pardon et de l'acceptation.
Et faut être très vigilant parce que parfois ça vaut pas le coup de lui pardonner.
Je crois que je vais pas lui pardonner ce bruit-là. Je suis so vénère. Ah oui, parce que vous avez deux filles.
Voilà, on a deux filles et j'hésite à rester à Montréal avec les deux filles. Et puis je me dis, mais quand même, là, on se lance dans un truc, on passe une année à pas se voir, les filles sont encore jeunes, enfin. Je me sens pas, donc on revient en France et Montréal reste comme une sorte de paradis perdu, exactement comme le Venezuela est pour moi avant la séparation de mes parents, le paradis perdu, le sujet de mon long métrage. Enfin, j'ai un truc avec le paradis perdu, ça a failli être merveilleux pour toujours et finalement non.
Bah tant mieux, il n'y a pas eu de dégoût et il n'y a pas eu la fin de l'amour.
Non, pas
ça
du
reste,
tout.
Ouais.
Et ma fille est née par vivre à Montréal l'an prochain, étudier.
Bah, tu vois, voilà. Comme quoi.
Une sorte de boucle.
Ouais.
Ouais. Non, mais j'ai un truc très fort avec cette ville. Et
c'est
avec
ta happy
les gens.
Place.
Exactement.
Ouais.
Une sorte de safe place. C'est très sécuritaire.
Ah ouais.
Et il y a un truc de non-jugement. Tu vois bien ces femmes là au bord du lac.
Ouais,
de. Enfin. C'est vrai qu'ici, tu vois, quand tu parlais de la parisienne, cette espèce, par exemple, dès que tu rencontres, je trouve, très souvent quand tu rencontres une nana, elle s'en rend à peine compte, mais elle te scanne. Il y a un truc, genre, ça passe du haut de ton corps au bas de ton corps, ça remonte. Puis en général, sur son front, il y a le résultat. Moi, je vois toujours écrit poubelle, mais bon, c'est moi.
Elle se surveille en permanence. C'est la femme française qui est la plus au régime. Hier, justement, il y avait une journée de tournage pour un truc, ce que je vais présenter. Est-ce que ça sortira quand je l'aurai dit ? Je sais pas, bref, un truc télé. Et puis après, on sort boire des coups. Alors ça, c'est admis en France. Tout le monde boit du rosé après un peu. Hein.
Ouais. Mais en revanche, si tu veux un sandwich jambon beurre, c'est bof.
C'est qu'en fait, j'ai faim et qu'il n'y a que des nanas. Je dis, j'ai faim. Bon, on finit par prendre des pizzas pour tout le monde, chacun picore, etc. Mais j'ai encore faim et je vois qu'elle me voit prendre à côté d'une salade, c'est le pain à pita qui n'est pas pour la pizza. Et je suis la seule à le bouffer.
Et
j'ai encore faim, je suis fatiguée, j'ai faim. Et je me suis pris une glace. Et en plus, c'était une glace genre gianduja chocolat avec du Nutella et des trucs, un truc énorme. Et j'étais la seule. Et en fait, je ne sais pas si elles m'ont regardée particulièrement. Je pense qu'elles m'ont dit « kiffe, profite ». Mais moi, je me suis réveillée ce matin avec la culpabilité. Non pas d'avoir bouffé la glace, mais d'avoir bouffé de la glace devant elles. J'avais honte.
Ah ouais. Mais alors ça, c'est un truc qui colle vachement à la peau. Et moi, je me suis défait aussi un jour où En fait, j'ai compris, finalement, entre les femmes, quand c'est les femmes rivales, il y a toute la question de l'envie. Et en fait, un jour, j'ai compris que très souvent, l'envie se déclenche quand on voit chez l'autre quelque chose d'épanoui qui fait conflit en nous. Et c'est ça, finalement, l'envie. C'est pas qu'on veut juste le t-shirt, le machin, on s'en fout, mais on veut la simplicité d'accès. Nous, on est en train de se dire la glace, pas la glace. Hein. Puis tout d'un coup, t'as cette nana qui dit en fait, moi j'ai encore faim. Il n'y a pas du pain après la pizza, puis je mangerais bien des pastas vongolais, et puis avec une glace. Et nous, on voit bien qu'on est dans une forme de conflit intérieur. Et moi, un jour, j'ai fini par me dire mais en fait, toutes ces nanas, je pense qu'elles doivent se demander ce que c'est mon secret, compte tenu de comment je suis gaulée, comment je mange, etc. Elles doivent se dire. Mais c'est quoi son secret ? Qu'est-ce qui fait que cette nana, elle n'est pas en train de raser les murs et d'être malheureuse comme les pierres ? Tu vois, dans leur système de valeurs, normalement, je devrais avoir la tête couverte de cendres. Et c'est,
pourquoi
et
ça ?
Et c'est pas du tout... parce que je suis ronde, parce que... Enfin, je écoute, viens à Hydra cet été avec moi, tu verras.
que, volontiers, cela dit.
Ça aussi, on finit par faire la paix avec tout ça. Il y a quand même vraiment un moment où ça
s'arrange.
Ça s'arrête.
Comme le frigo, je vais trouver une solution.
Exactement.
Merci.
Je ne sais pas si c'est Darty qui a te l'apporté, cette solution. Sur le frigo, oui. sur le sens de la vie, je suis pas
sur
complètement
les femmes,
certaine.
Merde, mais... dommage, ce serait tellement simple, t'imagines. Il y a un service, ça c'est un autre film de science-fiction. Et donc avec donc pour les projets de ton mari, à ce moment-là, vous revenez en France. Toi, tu continues ton activité de scénariste.
Je continue mon activité de scénariste. Je propose un sujet à une productrice, Lola Gans, qui me dit j'aime beaucoup ce sujet, mais en fait, Yael, tu n'arrêtes pas d'écrire des histoires très personnelles. Et ici, on n'est pas aux États-Unis où tu peux confier ton histoire personnelle à un réalisateur ou une réalisatrice. Quand on fait ça, il faut aller au bout du geste. Et donc, en fait, je pense que tu n'es pas du tout au bon endroit. Donc, ton sujet m'intéresse, mais s'il te plaît, réalise le film.
Génial.
Et là, je réussis à ne pas partir en courant. Miracle. C'était pas la première à m'avoir
soufflé
dit.
L'idée.
Ouais. Donc, en fait, je pense que quand je l'entends comme quelque chose que j'ai déjà entendu... J'arrive à me dire, ah là, il y a une occasion à saisir.
Ouais, je suis prête.
Ouais, je suis prête. Et donc, on lance un premier projet qui ne se fait pas. Ça, quand on veut réaliser un film, en fait, j'ai découvert qu'arriver sur le plateau, c'est les vacances, c'est tout ce qui se passe avant, qui est vraiment compliqué. Et puis là, j'ai un projet de long métrage que j'aurai tourné l'année prochaine avec Mélanie, Thierry et Arié Portalter.
Waouh!
Sur un sujet très personnel, ça s'appelle Adieu Caracas, et c'est l'histoire d'une famille de Français expatriés au Venezuela. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils s'aiment, et lui, il est juif, enfant caché, il a eu sa famille déportée. Et au moment en 72 où la France fait sa demande d'extradition de Klaus Barbie, qui vit à l'époque en Bolivie et qui tape le carton tous les après-midi avec ses copains dans un café alors qu'il est responsable de la rafle de la rue Sainte-Catherine, de la rafle des enfants d'Izieux, de la mort de Jean Moulin. Enfin, c'est vraiment l'enfoiré, l'ennemi. Ça devrait être l'ennemi public numéro un. La France fait une demande d'extradition que la Bolivie refuse. Et à ce moment-là, le personnage masculin qui, dans la vie, est mon père, décide d'aller l'assassiner.
Waouh !
En se disant, on fera mon procès et à travers mon procès, on fera forcément le procès de Klaus Barbie. Et donc Adieu Caracas, c'est un sujet, je trouve, qu'à avoir avec ce que les féministes essayent de faire valoir aujourd'hui, à savoir les hommes ont souvent la sensation que ce qu'ils ont à faire, c'est une grande œuvre, et en l'occurrence, même si ce projet est complètement dingo, on comprend bien aussi la vertu qu'il peut avoir de remettre le monde dans un ordre un peu plus juste, etc. Et en même temps, le personnage féminin qui sera donc joué par Mélanie Thierry n'arrive pas à faire comprendre à cet homme que sa meilleure revanche, c'est l'amour. Sa meilleure revanche sur son passé, c'est l'amour. Et que là, il va mettre en péril sa famille. Et que pour elle, avoir un mec qui accepte de peut-être terminer sa vie en prison ou de se faire tuer, c'est quand même pas anodin. Et donc, Adieu Caracas, c'est l'implosion de cette famille sur cette bipolarité comme ça, où elle lui dit, mais aimer, c'est pas un enjeu domestique, c'est notre révolution commune. Et lui, il comprend pas ça, c'est un homme de ces années-là, un peu mec des années 50, 60, voilà. Donc, il part comme un justicier faire son affaire à Barbie, et sauf à avoir habité dans un... L'habitat troglodytique, on sait bien que Barbie n'a pas été assassinée et qu'il y a eu un procès Barbie, donc à la dernière minute, et mon père le raconte, je l'ai vu dans les archives, il raconte au procès, il était là, je pouvais le tuer, c'était facile, mais...
Attends, ça, cette histoire, tu l'as pas inventée? Ton père a vraiment essayé
oui,
de...
Oui, oui, c'est une vraie histoire.
What?
Oui, oui, c'est une vraie histoire. C'est complètement autobiographique.
Ah ouais?
Et donc au procès Barbie, j'ai vu les archives et mon père dit... Barbie était là, j'avais mon flingue, etc.
Oh.
Mais ce jour-là, je découvre que l'humanité se divise en deux catégories, les assassins et les autres, et moi, je ne suis pas un assassin.
Oh, wow.
Et donc, dans le film, il y a quelque chose sur la trajectoire du personnage masculin que moi, je trouve très beau, qui est que le jour où cet homme a rendez-vous avec la haine, il découvre sa capacité d'amour. Mais c'est trop tard, entre-temps, sa femme est partie. Mais... Donc ça s'appelle Adieu Caracas. Je devrais le tourner, c'est en financement en ce moment, en recherche de financement. Par pitié, s'il vous plaît.
Je touche du bois, voilà. Même si apparemment toucher du bois, tu sais, c'est une superstition, c'est toucher le bois du Christ.
Ah, d'accord.
Ouais, c'est pas très fudge, mais ouais, écoute, si ça peut t'aider.
Enfin, voilà. Non, mais moi, je bouffe à tous les râteliers ouais. Là, sur ce sujet-là. Et du coup, la réalisatrice me fait réaliser un court-métrage avec Mélanie Thierry et Harry
Potter. La productrice, tu veux
la,
dire
la productrice, bonjour le lapsus. Elle me fait réaliser un court-métrage en me disant « Il ne faut pas que tu arrives sur le plateau du long et que ce soit toute ta première fois. » Donc, je suis accompagnée par l'équipe du film, absolument merveilleuse, l'équipe du long-métrage qui joue le jeu et qui vient faire le court-métrage avec des gens complètement incroyables, des Denis Lenoir à la lumière, Anaïs Roman au costume. Enfin, c'est un truc de dingue.
Ouais.
Et je réalise ce court-métrage et là, j'éprouve un peu façon le lac magique ce truc de « c'est ma place ». Voilà. C'est au fond, est-ce que c'est pas toujours un peu ça la question, tu vois, ça prend des formes différentes, mais la question de la place, finalement, c'est quand même l'enjeu majeur, quoi.
Ouais, et puis, et finalement, c'est étonnant que ta place, pour quelqu'un qui manquait de confiance, ce soit plutôt une place d'autorité, parce que réalisatrice, c'est le chef aussi.
Ouais, alors ça, c'est un truc qui m'est arrivé il y a quelques années. J'ai une copine qui voulait diffuser un test qui est utilisé par la NASA pour composer les équipes dans les fusées et être sûr que s'il y a un problème et que la fusée explose, c'est pas qu'il y a deux meufs qui se sont crêpés le chignon ou deux mecs qui se sont foutus sur la gueule. Ça s'appelle le PI, j'ai oublié ce que c'était la traduction en français. C'est un test de psychologie. Maintenant, il y a plein de boîtes qui s'en servent pour recruter les gens, etc. Et elle voulait un peu tester ce truc. Donc, elle m'appelle pour le tester. On ne se connaît pas, c'est une copine de mon frère. Et mon frère lui dit, ma sœur, elle adore ce genre de truc. Vas-y, appelle-la, elle va le faire. Et en fait, elle t'envoie une première liste de 50 adjectifs en te disant, coche les adjectifs qui, selon toi, te correspondent. Et puis, elle envoie cette deuxième liste. Mais la question, c'est, coche les adjectifs qui, selon toi, seraient cochés pour te décrire par des gens qui te connaissent.
Ouf.
Et tu vois qu'il y a des variations, évidemment, dans tu coches. Pas énorme, mais quand même. Et à l'époque, je suis scénariste, je n'ai pas le moins du monde l'idée que je vais un jour réaliser un film. Et la nana m'appelle hyper embarrassée en me disant « je suis vraiment désolée, mais pour moi, tu n'es pas du tout à la bonne place. Je pense que tu es un leader né, je pense que tu adores la vie collective, je pense que tu es quelqu'un de très prescripteur. Je ne comprends pas du tout pourquoi tu travailles toute seule dans ton coin, quoi, grosso modo. » Et je pense que c'est ça aussi qui fait écho quand la productrice me dit « tu n'es pas au bon endroit ». Je me souviens de cette expérience du test psychologique du PI et je me dis « ouais, on me l'a déjà dit ce truc ». Et tout d'un coup,
mais c'était pas pour monter dans une fusée.
Et c'était pas pour monter dans une fusée ou alors un autre genre de fusée. Mais tout à coup, la job de réalisatrice devient exactement ça, travailler avec des gens. Et puis... moi, dans la vie, je suis assez contrôlante et j'ai tout le temps envie de « mais pourquoi on fait ça comme ça ?» de couper les cheveux en quatre et tout ça. Et j'en retranche vachement parce que c'est juste chiant pour tout le monde.
En même temps, ton père a essayé de tuer Klaus Barbie, donc tu vois.
C'est sûr. voilà. Et sur un plateau, non seulement c'est pas chiant, mais en plus, ça fait partie de tes attributions.
Bien sûr, c'est une qualité.
C'est une qualité. Donc, tout d'un coup, j'ai eu la sensation que je portais des chaussures trop petites depuis toujours et qu'enfin, on me donnait une paire de chaussures à ma taille. Donc, un truc de genre... ah, tu vois.
C'est ton taf de prendre toutes les décisions.
Et ça peut se combiner avec, par ailleurs, le tempérament de quelqu'un qui doute et, par ailleurs, une personnalité gentille. Et par
ailleurs,
en fait, ça marche, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de... tu sais, des choses qu'on nous fait croire de que le leadership, c'est forcément violent.
Dur,
En fait, non.
Ah oui, c'est trop bien. Et donc, tu réalises ce court-métrage, vous êtes en développement pour le long. Et au milieu de tout ça, le lac magique, suite à un dîner.
Ouais, exactement. La proposition du lac magique que je mets un peu de côté. Et puis, quand le confinement arrive, je flippe un peu de genre, oulala, mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Et donc, je rappelle l'éditrice à qui je dis, mais tu m'avais dit ça un peu en l'air ou c'était un vrai truc? Elle me dit, non, c'est un vrai truc. Je décide de m'y mettre. Elle me conseille d'écrire une dizaine de pages et de les lui envoyer. Et moi, je suis convaincue que ces 10 pages vont être le début d'une conversation de travail, etc. Puis en fait, le lendemain, elle m'envoie un texto en me disant « c'est magnifique, continue ». Bon, là, blocage. Je téléphone à mon psy à qui je dis « au secours, j'ai écrit ces 10 pages hyper facilement et là, mais je ne vois même pas comment je vais pouvoir continuer ». Comme il est très très fort, il me dit... au téléphone, je me souviens plus trop quoi, mais ce qu'il faut pour... Je refuse de signer un contrat, l'éditrice, elle veut me faire signer un contrat, et je lui dis non, c'est, si je vois que c'est écrit noir sur blanc, que j'ai signé un contrat, que je ne vais pas y arriver, etc. Donc pendant tout un temps de l'écriture, je travaille sans contrat, et puis il y a un jour où elle me dit, en fait là maintenant, je ne te demande plus ton avis, on va signer ce contrat, je pense que tu as besoin d'être sécurisée, donc c'est moi qui décide. Ok. Mais effectivement, pendant cette période-là, heureusement, et d'ailleurs, là, maintenant, j'ai un deuxième projet de livre. En fait, dans le cinéma, le temps d'attente est tellement ouf.
Ouais.
Et te rend tellement dingo, zinzin.
C'est un équilibre parfait.
Ah non, mais c'est ça. Ouais, et puis, je pense que c'est assez vital, parce qu'effectivement, sinon
tu deviens fou. Ça prend trop de temps.
Pour le coup, porter tout seul ce désir, même s'il y a des producteurs, voilà, continuer à croire à quelque chose alors
avec
que...
Avec les retours de CNC, de machin, de trucs.
Vraiment, c'est très compliqué. Donc,
C'est l'équilibre parfait, c'est-à-dire en attendant d'avoir le full go feu vert de ton long, t'as donc un deuxième projet d'écriture de roman.
Ouais, je sens que mon arrière-cuisine commence à travailler un peu là.
Génial. Et potentiellement l'adaptation aussi cinématographique du Lac Magique.
Exactement.
C'est formidable.
Ouais. Non, mais il s'est passé quelque chose. Il y a un tournant là qui vient de s'opérer. Alors, c'est pas un hasard aussi. Mes filles grandissent. Enfin, voilà, c'est un secret pour personne que quand même les carrières de mère...
ça prend un temps fou.
Voilà,
c'est
pas pareil.
Ouais.
Mais quand même, il y a un tournant qui s'est opéré sur mon rapport au désir, quoi. Pouvoir le regarder en face sans que ça me déclenche des angoisses tellement terrifiantes que du coup, je m'invente des itinéraires bis. En fait, j'ai beaucoup fait ça. C'est-à-dire que... Je passais par des chemins qui m'éloignaient de mon cœur de pulsation parce que sinon j'avais trop peur, quoi. Trop peur de rater, trop peur de... Et trop peur de désirer. Trop peur d'avoir très envie. Et tu sais quoi ? Trop peur de réussir. Et ça, il y a plein de gens à qui, quand tu dis ça, ils te regardent genre « j'aimerais bien avoir tes problèmes
». Mais en fait, c'est une réalité.
Si t'es gaulé psychiquement pour résister aux nazis, j'ai vu il n'y a pas longtemps un spectacle d'Édouard Louis. Alors, Dieu sait que lui, il n'a rien de juif ni rien. Mais où à un moment, dans une lettre, il dit « encore raté pour le bonheur ». Et tu vois, ou Aragon qui dit « le bonheur est une chose grave ». Moi, je suis pas très douée avec cette affaire-là, quoi. Tu vois. Donc, et je pense que le désir, quand il est juste, et que du coup, tu parviens à vivre ce que tu... en gros, c'est quand même l'autoroute du soleil vers le bonheur. Et moi, je n'ai pas arrêté de prendre des chemins de traverse aussi, je pense, parce que...
Alors que tu étais avec un mec hyper ambitieux, quand même. Enfin, en tout cas, qui a réussi.
Alors,
je
suis avec un mec qui a vachement réussi, qui avait une ambition de réussite, évidemment, mais qui avait une ambition artistique et qui avait très envie. Je crois que son premier film, c'était Carnaval, qui est un film absolument magnifique. Et Christine Ravel avait trouvé pour MK2, donc avant même que je sois avec lui,
dingue.
Cette femme qui me fait rentrer chez MK2 achète Carnaval. Et je me souviens qu'elle me dit, ce réalisateur-là, le cinéma français, il y a quelque chose qui va être trop petit pour lui, il ne trouvera pas forcément sa place, il va aller ailleurs. Moi, j'oublie complètement ce truc-là. Mais aujourd'hui, c'est exactement ça qui se passe. Ouais. Là, il s'apprête à réaliser à Berlin un film de cinéma totalement américain. Enfin,
c'est génial.
Donc, mais Christine Ravel, talent, c'était de voir le talent des autres. Et c'est vraiment un talent qu'elle a incroyable, quoi.
Et toi, tu n'as jamais été jalouse de lui en te disant « Oh, ça a l'air facile pour lui de suivre son désir ?»
Non, j'ai été jalouse. Alors si, ça oui. C'est-à-dire que je n'ai pas été jalouse de sa réussite. Jamais, parce qu'en plus, on le sait bien que la réussite des autres, elle ruisselle sur nous. Quand on vit avec eux et qu'on accompagne ça, en fait, ça nous fait du bien. Hein. Enfin, moi, je préfère vivre avec un mec heureux qu'avec un mec malheureux.
C'est clair.
Mais en revanche, et j'en parle dans le livre, j'ai été très envieuse de sa capacité. Mais alors, moi, j'ai l'impression que les hommes accèdent à ça tellement plus facilement que les femmes.
Ouais. Et la légitimité, quoi, le sentiment ouais. de...
Et, ouais. et puis, la légitimité du désir. Ouais, et du coup, le fait que si on met les moyens en face de ce désir-là, il va se passer un truc. Ouais, et puis, ça ne veut pas dire qu'après, vive la réussite. Je sais que mon mari, quand il a réalisé Carnaval et que ça a été un succès critique incroyable, bah, il a fait une sorte de sortie de route hein, dont il a mis quelques années à se remettre. C'est quelqu'un de très complexe, etc. Mais j'étais pas envieuse des éléments du réel qui lui arrivaient et qui lui étaient favorables. J'étais envieuse de sa capacité à se dire, mais aujourd'hui encore, puisque moi, c'est une acquisition récente, j'étais envieuse de sa capacité à savoir ce qu'il aime manger, ce qu'il aime écouter comme musique, qu'il adore quand on part en vacances, commencer par s'arrêter dans un endroit où il va prendre un café à emporter parce qu'il aime conduire en buvant du café. Que ces milliers de petites choses-là que moi, j'ai remplacées par « ça m'est égal, tout me va ». Mais en fait, c'est faux, « ça m'est égal, tout me va », ça ne peut pas durer toute une vie. « Ça m'est égal, tout me va » finit toujours par se transformer en un truc de frustration dingue. Et donc, en fait, moi, je lui enviais sa capacité à assumer toutes ces petites choses que moi, j'avais remplacées par du devoir. Mmh. Voilà, si je fais ce que je dois faire, bah, du coup, j'ai plus trop la place pour me demander ce que je veux faire. Et comme je ne sais pas répondre à cette question, bah, du coup, ce que je dois faire, ça ira bien, quoi. Ça va m'occuper l'esprit, le temps, les enfants, c'est suffisamment chronophage,
ouais.
Tu vois.
Ben ouais.
Donc, mais il y a un truc sur les hommes, les femmes. Et en ce moment, ça fait 2 ans que je prends des cours de céramique.
Ah ouais.
Et la semaine dernière, j'étais à mon modelage, vachement concentrée sur ce que je faisais et tout ça. J'avais décidé de pas faire de tour de potier. Et en revanche, il y avait plein de gens parce que le tour, dès que t'es pas bien intérieurement, comme c'est que des histoires de corps, de centrage et tout ça. Tu dois monter des quilles, moi je fais des espèces de bites de terre infâmes, enfin, vraiment j'y arrive pas, et du coup ça m'énerve, et donc j'y arrive encore moins, enfin bon. Donc je m'étais mise au modelage, et j'entendais la prof merveilleuse qui passait entre les élèves, et donc il y a principalement des femmes, et il y a un homme, et toutes les élèves, et elle disait, oh, c'est bien ce que t'as. Et j'entendais le ronron de, mais non, regarde, là, je l'ai fait de travers, puis là, les mailles, il a pas pris, et puis là, regarde, non, mais la prochaine fois, j'essaierai de, oh, et puis tu veux pas, je sais bien que toi, tu aimes bien ce tour, excuse-moi, je me suis installée là, mais peut-être que tu voudrais t'y mettre, nanana. Puis à un moment, elle arrive vers un élève, l'unique mec, à qui elle dit, comme aux autres, hein, ah, c'est vachement bien ce que t'as fait, et là, j'entends la voix qui dit, oui, je suis très content. Oh. Et. Ça m'a vraiment frappée, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, mais waouh, le décalage est hallucinant entre toutes ces nanas qui sont là à s'excuser d'avoir mal fait, qui n'arrivent pas à recevoir un compliment, ni même un encouragement. Et moi, je le vois bien avec le livre qui est de fait une sorte de... qui a un accueil incroyable pour quelqu'un qui n'est pas du tout connu dans le milieu de la littérature et tout ça. Enfin, j'ai eu plein de presse et tout... Je le vois, je me dis, si c'était une de mes amies, je serais la première à être mais éperdue d'admiration. Et puis là, moi, je me dis déjà, bah oui, mais c'est la chance du débutant. Oui, mais enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un et c'est pas génétique, hein, donc c'est qu'on a grandi.
Ah bah ouais, c'est un formatage, quoi.
On a grandi, notre cerveau, il est pas gaulé pour retenir le bon et il est gaulé pour rester du côté du doute et de, tu vois, enfin...
Ouais, c'est dingue.
C'est dingue. Même Christine Lagarde, elle dit qu'elle veut imposer des quotas dans les recrutements des entreprises parce qu'elle dit, maintenant, ça fait 40 ans que je bosse, 40 ans que quand je recrute des hommes, ils disent, je ne suis pas assez rémunérée pour ce poste parce que je suis trop compétent, donc en fait, il va falloir m'augmenter. Et que toutes les femmes disent, oh non, mais c'est beaucoup trop d'argent et d'ailleurs, je ne suis pas assez compétente pour ce poste, je pense que vous devriez rencontrer quelqu'un d'autre. Et du coup, d'un moment, elle a dit, mais en fait, moi, j'étais contre les quotas et maintenant, je suis favorable. Parce que
bah oui.
Si on doit compter sur les femmes, en fait, il n'y aura jamais de nana au CAC 40, quoi.
Ouais, non, mais c'est dingue.
Il y en a 3, tu vois, sur 40.
Bon, bah, justement, on va faire un exercice, Yael, on va passer au questionnaire de Proust. C'est des questions et il ne faut pas que tu t'excuses quand tu donnes une réponse.
D'accord.
Ok, alors, la qualité que tu préfères chez un homme?
Ça, c'est difficile parce qu'il y en a plein qui me sont très nécessaires, mais sa gentillesse, je dirais.
La qualité que tu préfères chez une femme?
Pareil.
Le principal trait de ton caractère?
Insatisfaite.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Leur bienveillance.
Ton principal défaut?
L'insatisfaction. Alors, défaut pour moi-même, pour les autres, je ne sais pas. Mais en ce moment, ouais, je trouve que cette difficulté vraiment que j'ai à...
À voir quand c'est bien, ouais, quand ça suffit.
Ouais, ouais, quand c'est assez, quoi. It's enough. Ouais. Voilà, ça, franchement, ça me pompe, là.
Ouais. Ton occupation préférée ?
Manger.
Oui. Manger quoi ?
De tout, en très grande quantité.
T'as pas un plat préféré ?
Alors, si tu m'envoies une côte de bœuf, pomme de terre sautée, mais je vais être au paradis, je pourrais manger la bête à l'encolure, si tu veux. Donc, évidemment, j'ai fait ce qu'il fallait, parce que planète, animaux, souffrance animale, tout ça, et que je suis très consciente de ça. Donc, je mange très peu de viande, mais... Ça reste pour moi. Mais du coup, ça se remet à la place que ça devrait occuper, je pense.
Ouais.
Ça, c'est hyper festif et vraiment, j'en suis dingue. et après, j'adore les pastas al vongole de mon chéri.
Ah. Ton idée du bonheur ?
La paix intérieure.
Quel serait ton plus grand malheur ?
Je peux même pas y penser. Tu vois, ça me fait vriller la voix tout de suite. Hier, j'ai découvert un album qui s'appelle Garden Party. J'ai oublié le nom du chanteur. J'ai vu une copine sur Facebook qui en parlait. J'écoute, je suis dans le métro avec mes écouteurs. Et la première chanson s'appelle De Justesse. Et c'est l'âge de certains enfants. Voilà, à 4 ans, je t'enlève les doigts de la prise. À 12 ans, tu sautes une rivière dans les Cévennes, les rochers. À chaque fois, tu t'en sors de justesse. Le refrain arrive. S'il te plaît, mon amour, passe ton tour. S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît, mon enfant, reste vivant. Je me suis retrouvée à chialer comme une merde dans le métro avec les gens qui me regardaient en se disant, cette pauvre meuf, elle vient de se faire larguer comme une merde. Donc voilà, ça serait clairement mon pire malheur, évidemment.
Où aimerais-tu vivre ?
Je suis très heureuse là où je suis.
Montreuil,
on
peut le dire ?
Ouais, j'habite à Montreuil. Je me souviens que quand un de mes frères, le photographe, vivait à Los Angeles, on disait Los Angeles, c'est une ville pour les gens pas terminés. Et moi, j'ai la sensation que Montreuil ou Bagnolet, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand je suis à Paris, c'est tellement beau qu'il y a quelque chose qui m'écrase. J'ai l'impression que, voilà, on est dans un temps de beauté éternelle dans lequel je trouve pas ma place. Et à Montreuil, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait 10% d'artistes à Montreuil.
Ah ouais,
donc
c'est énorme.
Quand même un truc de dingue. Et j'adore cette ville. Mais vraiment, j'y suis hyper bien. Je me trouve très chanceuse d'habiter là. Donc voilà, ça me va bien.
Ce que tu détestes par-dessus tout ?
J'allais dire la méchanceté, mais je crois qu'il y a un truc que je déteste encore plus, qui est avoir l'air de ce qu'on n'est pas. Ça, vraiment, moi, quand je rencontre une connasse, eh ben, si elle a l'air d'une connasse, en fait, elle ne me gêne pas tellement.
C'est vrai.
Ouais. Mais alors, la connasse qui est déguisée sous les traits de la meuf formidable, elle, vraiment, j'ai du mal, quoi. Et pareil chez les hommes, hein, mais je trouve que, justement, chez les hommes...
Ça se voit.
Ouais, ils se donnent moins de mal de tromper leur ennemi ou... quelque chose du côté de la trahison, tu vois, voilà. J'aime pas.
Ouais. Parfois, moi, je rencontre des connasses qui s'en cachent pas et je leur trouve quand même des excuses. Et après, je suis en mode, ah, mais c'était vraiment une sacrée connasse. Tout était là pourtant pour que je le voie.
Mais parce que tu dois être comme moi, comme tu n'as aucune violence réactionnelle et que tu dois avoir un peu peur du conflit. Du coup, c'est très inhibé. Donc, en fait, moi, je rentre chez moi, je me mets la main derrière la nuque en me disant, mais il y a du sang. Ah, bah oui, en fait, c'est qu'elle m'a défoncé la gueule avec sa pioche. Et sur le moment, je peux avoir passé tout un déjeuner avec une nana sans m'appeler. Percevoir qu'en fait elle était tellement
odieuse.
Agressive quoi. Donc
C'est bizarre qu'on soit comme ça avec quand même des pères différemment mais violents, mais c'est vrai, je me dis ou alors c'est lié, mais c'est vrai que
je pense qu'en fait c'est articulé, c'est-à-dire que c'est d'abord on a appris la soumission quand même à une forme de violence et puis, précisément, puisqu'il y avait un interdit à rentrer en conflit, en tout cas, moi, mon père, il me faisait peur. Je ne sais pas du tout quelqu'un avec qui je rentrais en conflit.
Ouais. Ou alors, mon père, tu le connais sous ses formes sympathiques et tout machin.
J'ai
lu
ton livre.
Et encore, il n'y a pas tout. Hein. Il est très violent physiquement parfois, mais je l'adore. Hein. Mais, c'est vrai,
mais sauf que j'ai l'impression quand même que ton père il t'a autorisé un droit d'inventaire, et d'ailleurs le mien aussi, en un sens. C'est-à-dire, et du coup, bah, c'est ça qui fait qu'on n'est pas complètement anéanti ni rien. Ouais. C'est que c'est quand, je trouve que quand on peut signifier à ses parents, bah, tu vois, passer au tamis de ma propre existence. Et moi, mon père, quand il est tombé malade, je me souviens un peu avant sa mort, il m'avait dit, est-ce que tu veux que je te dise un peu les deux, trois choses que j'ai comprises de la vie? Et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais plutôt faire mon propre chemin, parce que si j'en juge par comment t'as pas été heureux, non merci le conseil. Et je me souviens, il s'est marré, il m'a dit « fair enough », qui veut dire genre « ok, c'est juste, je comprends ce que tu dis ». Donc ça, c'est quand même une chance avec ces pères-là, même s'ils étaient vachement durs et vachement exigeants, etc. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du libre-arbitre.
Ouais, de la liberté.
Voilà, qui nous a été donné, quoi.
Ouais, c'est complètement, je suis complètement d'accord. Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel ?
Une forme de tranquillité qui, c'est pas si souvent. Et je suis et tranquille et demain, on fête en famille avec les amis qui la connaissent depuis toujours, les 18 ans de ma fille est née. Oh. Et donc, ça me rend aussi assez fébrile. Parce que c'est con, c'est juste symbolique. Hein. Elle est toujours la même personne et tout ça. Ouais. Mais c'est quand même un cap. Et puis après, elle s'en va vivre à l'étranger et tout ça. Et... donc je suis tranquille et émue. Voilà. En fait, d'ailleurs, c'est pas tranquille. Je suis émue, même d'être là.
Merci Yael.
Merci Rosa.
Et voilà, c'était Yael. Ne manquez pas d'acheter son livre Le Lac Magique pour vos vacances. C'est un épisode incroyable. Moi aussi, j'étais émue, malgré le bruit de mon satané frigo. Faut absolument que je rappelle Darty. Putain, ça me bute rien que d'y penser. J'en ai marre. J'en peux plus. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer les choses matérielles de ma vie et qui m'empêche de me consacrer à l'artistique, à mon podcast. On aura quand même reçu dans ce podcast, Les Mecs que je veux ken, une écrivaine dont le père a tenté de tuer Klaus Barbie. J'adore la phrase du père de Yael, l'humanité se divise en deux catégories, les assassins et les autres, je ne suis pas un assassin. J'espère tellement que Yael réussira à obtenir les financements pour son film. Je prie pour voir un jour Adieu Caracas au cinéma. Et en attendant, sur YouTube, je vous recommande encore chaudement d'aller voir Extra Large, dont je remets ici une petite musique en vous quittant. Bisous.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.